Salut les joueuses, salut les joueurs, nous sommes en septembre 2026 et vous écoutez un dossier de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Bienvenue dans ce nouveau dossier de Proxyjeux. Ce soir, nous vous proposons de faire un petit voyage 20 ans en arrière pour revenir sur une année particulièrement riche en jeux de société, 2006. Alors, c'est Elodie qui vous parle et je vais faire un petit rappel sur le concept. Les dossiers, ce sont des émissions pour lesquelles nous avons choisi un thème. Autour de ce thème, nous avons demandé aux chroniqueurs et chroniqueuses de l'équipe de choisir chacun et chacune un jeu sorti en 2006 et de nous expliquer pourquoi ce jeu est leur préféré de cette année-là. Le format de ce dossier est donc un peu particulier, plutôt que de réunir plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses autour de différents angles, nous allons vous proposer une succession de petites pastilles consacrées chacune à l'un de ces jeux. Et comme on voulait aussi savoir quel jeu de 2006 avait marqué nos auditrices et auditeurs, nous vous avons posé la question sur les réseaux sociaux. Certaines de vos réponses viendront donc ponctuer ce dossier. Pour m'accompagner dans ce voyage 20 ans en arrière et rentrer dans la DeLorean, je suis accompagnée de Kurtz. Salut Kurtz!
Salut Elodie, salut tout le monde. Et donc je tiens à dire, c'est moi qui ai compilé les réponses des auditeurs. Donc s'il y a eu des oublis de ma part, vu que vous avez été très 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 nombreux à nous répondre, et je vous en remercie énormément, et ben je suis désolé. Voilà.
Et c'est vrai que notre appel, il a fait vraiment mouche, hein.
Ah ouais, il a été bien, ouais. Donc si on vous a oublié de vos commentaires d'avant, bah dites-le nous dans les commentaires d'après.
Et Kurtz se flagellera...
Pour chaque commentaire oublié, je me flagellerai, promis.
Donc avant de commencer, nous tenons comme toujours à remercier nos donateurs et donatrices qui nous permettent de réaliser et de diffuser nos émissions. Donc je vais te laisser Kurtz les citer.
Donc nous remercions la famille Blu, Cédric, Nox, Damien, Tespios, OlfenW, Gaume, MCJC78, Nico Como, Beru, Podcastor, Wallring, Karl Schnaps, Dr. Cheux, la famille Gerpet, Hammer et Johan.
Et nous remercions également la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. C'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.fr. Et ben, je vais te laisser faire le retour sur le précédent dossier. T'en étais, il me semble...
Oui, c'est vrai, oui, le précédent dossier qui parlait des remakes, refontes, reskins, tout ça dans le monde du jeu de société. Donc il y a eu assez peu de commentaires sur le site, même si c'était des commentaires qui étaient très riches, il y en a eu 5, mais il y a eu beaucoup de réactions sur le Discord. Et donc si vous tenez à voir tout ça, bah n'hésitez pas à venir lire les commentaires, on va vous faire un petit résumé ou à nous rejoindre sur le Discord. Donc pour les commentaires, il y a Chips qui soulève une remarque sur la notion de stand-alone dans le monde du jeu vidéo et qui conteste l'affirmation qui est faite dans l'émission selon laquelle ça n'existerait pas dans le jeu de société. Il donne plusieurs exemples avec des extensions, des dérivés, Half-Life, Starcraft, Dawn of War, etc., etc. Des tas de jeux que je ne connais pas forcément, c'est pas un domaine, le jeu de vidéo, qui m'intéresse particulièrement. J'en suis désolé. Alors le gros morceau des commentaires, c'est Nebu. Il revient à 2 reprises sur la distinction qui est faite entre remake et reboot. Et explique que le remake, ça consiste selon lui à refaire une œuvre en l'adaptant à son époque. Notamment pour des raisons techniques ou culturelles. Il fait le parallèle avec le cinéma ou le jeu vidéo. Et il pose surtout la question intéressante pour le jeu de société. Est-ce qu'il existe réellement des remakes faits par un autre auteur plutôt que des reprises ou des refontes de l'auteur original? Cyrus lui répond directement en reconnaissant que c'est un angle qui n'avait pas été abordé dans l'émission et cite plusieurs exemples possibles. Trichetta et Coloretto, Nova Luna et Habitat, Witchstone est génial. Et puis surtout l'évolution du jeu Civilization jusqu'à Civilization A New Dawn. Alors il conclut lui-même que c'est un sujet qui aurait pu faire l'objet d'une chronique, voire d'un futur remake de l'émission évidemment. Et enfin, il y a Cal Hervé qui résume assez bien le problème général. Il trouve que les notions de suite, de remake, de réédition sont particulièrement difficiles à borner dans le jeu de société, et il se lève toute une série de questions sur l'intention de l'auteur ou de l'éditeur, le reskin, l'essence d'un jeu et même le bateau de Thésée. Et il termine évidemment sur vivement que vous sortiez la version Deluxe édition 1.5 Alpha 2 Limited Second Line.
Voilà, les bons mots de Calervé, il nous avait manqué cet été. Hein.
Voilà, toujours, toujours. Ça fait toujours plaisir qu'il soit là. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Elodie, je te propose quand même qu'on fasse ensemble, toi et moi, un petit point sur l'année 2006. L'année 2006, c'était il y a 20 ans.
Non, c'était hier. 20 ans, c'était 86.
On est d'accord. Et puis, c'est quand j'avais encore des cheveux. on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait en 2006?
Eh bien, en musique sortait La Boulette de Diams.
Comme un coup de boulette, boulette sur les ondes. Alors, ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non. Génération.
Et je pense que tu remuais ton derrière sur Hips Don't Lie de Shakira.
I'm on tonight.
Absolument.
Ou alors que tu avais été à la première édition du Hellfest à Clisson du 23 au 25 juin.
Comme quoi, il y en avait pour tous les goûts déjà en 2006. Niveau cinéma, Daniel Craig reprenait le costume de James Bond dans Casino Royale.
Et avec quelle classe! Moi, je crois que c'est mon James Bond préféré. Ouais, vraiment. Avec Sean Connery.
Je saurais pas dire. Pour moi, ils apportent tous quelque chose. Mais c'est vrai que Daniel Craig, il a quelque chose dans le James Bond.
Bon, sinon, deux salles de ambiance.
Dans un genre, dans la salle d'à côté, un genre un tout petit peu différent.
Alors? On n'attend pas Patrick?
Avec Camping.
J'avoue que celui-là, j'avais pas été le voir au cinéma. Par contre, j'avais été voir Marie-Antoinette de Sofia Coppola.
Tout cela, madame, c'est Versailles.
Qui m'a beaucoup inspirée pour mon mariage parce que j'ai porté des Converse roses sous ma robe de mariée.
Ah, quelle classe! Ah ouais. Et ensuite, le César du meilleur film de 2006, c'est donc forcément un film sorti en 2005, c'est De battre mon cœur s'est arrêté.
Alors c'est toi qui as fait cette petite liste, pourquoi tu as choisi ce film-là? Moi j'avoue que j'ai rajouté Marie-Antoinette.
Je sais pas, je me suis dit qu'est-ce qu'en France est marquant? Le César, donc César du meilleur film, je me suis dit que c'était ce qu'il y avait peut-être de plus marquant.
Ok, c'est pas parce que tu avais aimé le film.
Absolument pas.
Bah écoute, moi je l'ai vu et c'est pour ça que j'ai marqué 2005, parce que je me suis dit, mais c'est pas un film de 2006, c'est un film que j'ai vu avant, parce que 2005 est une année qui m'a marqué, pour des raisons personnelles, et je l'avais détesté, mais comme rarement un film au point de presque sortir.
Bah oui, voilà, mais les Césars fonctionnent comme les As d'Or, ça récompense les films de l'année d'avant.
Oui, tout à fait.
Au niveau des séries télé, j'en ai noté deux qui sont notables de la période pour moi. J'ai noté Prison Break, donc c'est une série qui a commencé un petit peu avant aux États-Unis et qui arrive en France en 2006. J'ai noté aussi Heroes qui commence en 2006 aux États-Unis. Et tu as un petit mot à nous dire sur Heroes?
Bah oui, parce que on a appris il y a quelques semaines la mort de Hayden Panettiere, qui était la pom-pom girl de la série Save the Cheerleaders, Save the World, et malheureusement, la cheerleaders est partie, et j'avoue que ça m'a fait de la peine.
Ouais, tout à fait. Une des actrices principales de la série Heroes, effectivement. Alors, dans l'actualité, dans un domaine qui m'intéresse absolument pas, il semblerait que cette année-là, il y avait une Coupe du Monde qui se passait en Allemagne et qui s'est finie sur un France-Italie relativement mémorable, paraît-il, avec une petite interaction entre un Zidane et un Materazzi et un coup de boule.
Et le fameux coup de boule. Je suis pas très intéressé par le football.
Moi non plus, mais quand j'ai tapé dans Google événement 2006, celui-là était très haut dans la liste, donc je me suis dit que c'était intéressant d'en parler quand même.
Tout à fait, parce qu'on dirait que c'est hier, en fait, c'était pas hier du tout.
C'était pas hier du tout, oui. Il y a quand même eu 4 Coupes du Monde depuis, je crois, donc ouais, effectivement, ça...
Là, tu deviens désagréable.
Ah, je suis désolé.
Et technologiquement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2006?
Ah bah, c'est là on va reprendre une petite claque, parce que en 2006... pas d'iPhone. Les tout débuts de Facebook qui n'étaient pas accessibles encore au public. Si vous voulez savoir comment Facebook avait a commencé à regarder le film The Social Network, vous verrez qu'au début, c'était vraiment réservé à, aux universités américaines. En 2006, YouTube a un an.
Waouh.
Et c'est pas du tout le même qu'aujourd'hui.
Non, c'était quoi le premier? C'est pas le chat qui a été posté en premier?
Je sais pas, je saurais pas te dire.
J'avais entendu une fois quelle était la première. Alors si vous savez, dites-le nous dans les commentaires, quelle a été la première vidéo postée sur YouTube? Ça nous intéresse.
Ah, on prend, oui, effectivement. Alors ensuite, niveau jeux vidéo, c'est la première année de la Wii et de la PS3. Et donc le smartphone n'existe pas encore dans le sens où nous on l'entend, avec un téléphone, avec un gros écran, sur lequel on peut faire des trucs qui sont pas du téléphone.
Ouais, on peut dire que c'était un autre monde. Et pourtant, quand on regarde les jeux qui sortaient cette année-là, certains semblent avoir été publiés hier.
Ah bah voilà, donc là on rentre dans le vif du sujet, ça y est.
Aïe, c'est parti. Donc c'est parti pour le dossier « Mon jeu préféré de 2006 ». Alors, nous allons commencer cette sélection de pastilles avec, je te laisse nous l'annoncer.
Donc, le premier jeu, c'est Lana qui nous le propose, son jeu préféré de 2006. Il s'agit de Quirkle. Donc, nous écoutons Lana.
Bonjour, c'est Lana. 2006. Eh bien, moi, j'ai choisi de vous parler de Quirkle. Pourquoi? Déjà, parce que c'est une femme qui l'a créé. Et ça, c'est encore assez rare pour le souligner, surtout en 2006. C'est un jeu de l'américaine Suzanne McKinley-Ross. Et surtout, pour moi, c'est le jeu intergénérationnel par excellence. Celui où on peut mettre mamie et son petit-fils autour de la table et passer un bon moment. Le jeu est donné pour 2 à 4 joueurs, à partir de 6 ans, avec des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu simple. Son poids BGG, c'est 1,58. Il est basé sur des combinaisons de formes et de couleurs. Le jeu contient 3 tuiles de chacune des 6 formes et 6 couleurs différentes. On va chercher à aligner des formes ou des couleurs ensemble, avec un bonus si on réunit les 6 dans une même ligne. Et c'est tout. Le matériel est beau, solide, coloré, très agréable à tenir en main. Les enfants vont se prendre pour des grands. Eux aussi ont leur chevalet avec leurs tuiles devant eux, comme quand papy joue au Scrabble. Mais là, c'est eux qui optimisent ce qu'ils posent. Et puis, faire une ligne de couleur ou de forme identique, c'est dans leur corde. Autant que d'aller piocher dans un grand sac d'ailleurs. Niveau d'au-dessus, mamie va se faire plaisir à jouer le tempo, temporiser la pose de plusieurs tuiles d'un coup en évitant de proposer trop d'ouverture aux adversaires. Et puis, on peut aller encore plus loin et compter les tuiles qui n'existent plus qu'en un seul exemplaire et qui, par conséquent, peuvent avoir plus de valeur. Si je les garde encore un peu dans mon jeu, en attendant, je l'espère qu'elles finissent dans une combinaison de 6. Quirkle, c'est vraiment un jeu entre la chance au tirage et l'opportunisme, avec un soupçon de stratégie. Et il a une vraie reconnaissance. Il a gagné le Spiel des CRS en 2011. Bon, je vous l'accorde, il a mis du temps à traverser l'océan pour arriver en Allemagne. Mais le public semble en redemander. Le jeu a été décliné dans de multiples versions. Quirkle Card, Cube, Connect, Flex, Trio. Et là, il y a même une version annoncée Quirkle Super Pouvoir. Bon, hormis le fait que les couleurs ne sont peut-être pas bien reconnaissables par les daltoniens, et que Quirkle, c'est pas intuitif à écrire, bah ouais, moi je l'écris toujours avec un C, bah y en a pas. Bref, hormis tout ça, c'est vraiment un jeu que je recommande pour faire jouer les personnes qui disent qu'elles n'aiment pas jouer, ou tout simplement pour rassembler la famille autour de la table. Alors, jouez bien.
Eh ben merci beaucoup Lana, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le côté intergénérationnel. Comme tu le disais si bien, Suzanne McKinley-Ross a eu le Spiel, et c'est d'ailleurs la seule femme seule qui l'a eu. Donc bravo madame, et puis le Spiel, ça serait bien que vous arriviez à promouvoir quand même les jeux faits par des femmes, parce qu'il serait temps que vous vous mettiez au moins au niveau du Festival de Cannes, quoi. Parce que là, en fait, Suzanne McKinley-Ross, c'est la Jane Campion du jeu de société.
Ah effectivement, oui. Il y a un petit peu de retard à ce niveau-là. Ouais.
Et c'est en effet pas intuitif à écrire, et encore moins à dire. Moi, c'est vrai qu'au boulot, les gens, ils savent jamais le prononcer, c'est très rigolo. J'ai des itérations de prononciation que j'aimerais enregistrer.
Oui, oui, ni le prononcer, ni l'écrire. Ah, c'est ça. C'est très, très rigolo.
D'ailleurs, c'est la punchline, hein, imprononçable mais inoubliable. Et c'est l'un des seuls jeux où j'ai des clients qui reviennent s'en acheter, car ils ont littéralement poncé le jeu.
Ah oui, ah, ça m'étonne pas.
C'est-à-dire
oui.
que leurs tuiles sont complètement illisibles, ils n'arrivent plus à rien voir.
Oui.
Il y en a certains qui ont essayé de les repimper avec du Posca, mais au final, ils reviennent.
Ouais, ça marche pas. Ouais, ouais, effectivement.
Ça,
ouais.
Bah, ça marche un petit temps, puis après, ils disent non, ça, il faut changer le jeu.
Ouais, je suis d'accord. Non. Et puis pour rebondir sur ce que dit Lana à un moment, alors je vais pas me mettre à la place des daltoniens parce que je le suis pas, mais j'imagine que ça doit être l'enfer. Mais pour moi qui ai pas de problème de couleur, j'ai joué il y a quelques jours à Quirkle en festival, en soirée. Mmh. Et ben je vais pas te mentir, entre le orange et le rouge et entre le bleu et le vert, il y a des fois, c'était pas forcément évident.
Ouais, je pense que si t'as pas une luminosité suffisante, en effet, c'est... Ça doit pas être un jeu facile à jouer.
Et donc oui, c'est pas un jeu qui nous est arrivé tout de suite. Il est sorti en 2006 aux États-Unis. La France, on l'a eu qu'en 2010. Mais bon, c'est un jeu de 2006. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là.
Aucun débat. On valide le choix de Lana.
Et donc au niveau des commentaires de nos auditeurs, nous avons Greedy Bell qui nous dit avoir noté pour les jeux de l'année 2006 Can't Stop, Time's Up et Quirkle. Et on va rebondir sur ce que dit Le Gaume en 2006, donc c'était Time's Up, un rythme effréné. Alors je voulais moi apporter une petite précision sur Time's Up. Time's Up est sorti en 2005, ça y a pas débat du tout, mais pour une raison qui m'échappe, MyLudo l'a noté en 2006. Donc on va être indulgent avec les gens qui ont décidé de mettre Time's Up en 2006.
Oui, et il y en a plein, on a aussi l'ami Dédé Schutz qui nous disait qu'à cette époque-là, c'était le seul jeu qu'il connaissait auquel il jouait.
Voilà, bon, et ben écoutez... Vous avez gagné un an, c'est cadeau.
Voilà, vous rajeunissez.
Eh ben, il va être temps d'enchaîner sur le jeu suivant, si tu veux bien. On va parler, c'est Flavien qui nous parle de Genesis. Flavien, on t'écoute.
Bonjour les joueurs et bonjour les joueuses, moi je vais vous parler pour ce jeu de 2006 d'un jeu d'un auteur qui déjà était connu et avait sûrement déjà des centaines de jeux à son actif mais qui en a encore plus depuis, c'est évidemment Rainer Knizia et le jeu dont je vais vous parler, il en a plusieurs évidemment sortis en 2006, c'est Genesis. Genesis, donc c'est un jeu qui est sorti chez Face to Face Games, et il faut savoir que c'est un jeu qui est un peu passé inaperçu quand même, si on en croit les notes sur BGG, même la note globale et tout. Il a eu quand même une version française, en fait c'était une seule version unique chez Face to Face qui était anglo-française. Il faut bien dire que avec son look, ça aidait déjà pas à l'époque à vendre et à attirer le chaland, parce que même pour un jeu de 2006, il était vraiment assez hideux. On pourrait croire qu'il avait 20 ans de plus. Alors faut savoir que, comme c'est un peu le cas pour pas mal de jeux de Rainer Knizia ces derniers temps, Genesis va être réédité par Tangerine Games sous le nom de Glyphs, les Glyphs, et je trouve ça assez moche aussi, d'un autre style de moche, mais écoutez, c'est pas très beau, mais peu importe, parce que le jeu, lui, est bon, on retrouve évidemment la patte de Knizia, les règles, c'est 2 pages, c'est un tour extrêmement fluide, extrêmement efficace, c'est aussi un espace d'analyse qui est très rapide, hein. Moi, vous savez, j'aime beaucoup ça chez Knizia, c'est vite vu, les choix qu'on peut faire, et après on prend le temps de faire ses choix cornéliens, et c'est des choix assez essentiels et intéressants, et ben on a clairement ça dans Genesis, l'idée c'est qu'on a 2 tuiles à son tour, et on va les poser où on veut sur le plateau. Il n'y a pas de règle de pose, un peu comme il y a eu dans Rebirth plus récemment, mais en fait, ben, où on va vouloir poser, ça va être une incitation selon le scoring. C'est plus une vibe un peu comme Samurai là, qui va ressortir cette année sous le nom de Hanami. Il y a plus un peu cet esprit-là. D'ailleurs, il y a une variante avec laquelle je joue moi dans Genesis, c'est une variante qui est proposée sur BGG par Jonathan Cox, la personne qui animait Getting Games, parce qu'à la base, dans Genesis, on lançait les dés, on prenait les tuiles correspondantes. Là, l'idée, c'est plutôt qu'à la fin du tour, donc là encore comme dans Rebirth, on prend les 2 tuiles qui vont nous servir au tour suivant, parce que ça permet de prendre des tuiles à la fin du tour, mais surtout, il y avait ce lancer de dés qui était un peu étrange, il y avait aussi une phase Joker qui crée un peu du déséquilibre un peu injuste, entre guillemets. Donc voilà, là, on est plus vraiment dans un esprit Rebirth Samurai, et qui reste encore, par contre, il y a cette flexibilité, ce petit truc de flexibilité, on peut remettre les 2 tuiles dans le sac pour prendre une seule que cette fois, on va choisir, donc on posera moins de tuiles, mais on aura choisi la tuile qu'on va poser. Et donc, je parlais de score d'intérêt des choix parce que bah en fait c'est vraiment tout bête hein. Comme dit, on va poser 2 tuiles et en fait on va créer des zones et c'est là que ça va créer un peu cette tension là puisqu'on est dans un jeu de majorité où en fait il y a différentes couleurs de tuiles et dans ces différentes couleurs va y avoir les différents symboles des joueurs et joueuses et donc pour une couleur donnée et ben tout groupe d'au moins 3 tuiles adjacentes de cette couleur ça va donner un scoring de majorité et il y aura 4 points pour la personne qui a le plus grand groupe de tuiles à son symbole dans le groupe de ce symbole. Alors c'est un peu chiant à expliquer, vous irez voir une vidéo vidéo ou la règle, hein, tout simplement, puisqu'elle est courte. Mais en gros, on va essayer donc de créer, dans ces groupes qui vont scorer, le plus grand groupe de nos propres tuiles adjacentes. Et il y a également, bah, comme souvent dans les jeux de majorité, une petite place, une deuxième place qui rapporte un peu moins de points. Et en fait, ces points-là où c'est intéressant, c'est que bah, c'est toujours les mêmes nombres de points, c'est 4 points et 2 points. Alors bon, je vous épargne les égalités. Donc en fait, gagner 4 points sur un tout petit groupe, bah, et on investit peu de tuiles, évidemment, c'est un peu plus intéressant que de gagner 4 points ou 2 points, mais où on investit énormément de tuiles. Il y a souvent dans les jeux de Knizia ces histoires de ratio entre ce qu'on investit et ce qu'on en gagne, ce qu'on y gagne. Et donc, je disais, quelle que soit la taille du groupe, il y a ce ratio, mais il y a un petit détail là-dessus, qui a quand même un impact vraiment sur la partie, sur la dynamique du jeu, sur les choix qu'on fait dans le jeu, c'est que dans tous ces groupes qu'on va scorer, le plus grand groupe global de tuiles de même couleur adjacente, eh ben on va tripler les points, et donc plutôt que 4 points, ça va être 12 points pour le premier. Et ensuite, pour chaque autre couleur qui n'était pas ce plus grand groupe, eh ben le plus grand groupe de cette couleur-là va avoir les points doublés. Et du coup, en fin de partie, on est vraiment là un peu à compter, à se dire, ouais, est-ce que là, ça va être le plus grand groupe, ça va être celui-là, est-ce qu'il faut pas que j'agrandisse celui-là parce que je suis bien dessus. Donc ça va vraiment avoir un impact, ce scoring qui change un petit peu sur les choix qu'on va faire au cours de la partie. Dans l'ensemble, c'est un jeu, comme souvent chez Knizia, assez interactif sur plateau commun, assez vilain, assez méchant potentiellement. Alors on détruit rien, mais on va bloquer beaucoup, c'est beaucoup des jeux de blocage, des coups opportunistes. Il y a un petit peu de hasard, comme souvent chez Knizia, avec cette pioche. Il y a du tempo vis-à-vis de la fin de partie qu'on peut plus ou moins maîtriser. Il y a évidemment des alliances temporaires plus ou moins explicites, où on va dire ouais, viens là, on fait un truc, là on est pas mal et tout. Et donc on est vraiment sur une proposition assez cool. Comme dit, elle a pas eu grand retentissement. Et du coup, même si je trouve que la nouvelle version là de Tangerine Games c'est pas forcément très jolie non plus, peu importe, hein, moi je m'en fous un petit peu, hein, ce qui compte c'est vraiment les sensations de jeu. Elles étaient là dans Genesis, je doute pas qu'elles soient là dans Glyphs. Donc malgré mes réserves, bah en fait, comme toujours, hein, moi, les bons jeux, ben, si plus de monde peut ressentir les émotions que moi j'ai pu ressentir sur Genesis, tant physique qu'en numérique, ben, si plus de monde peut le ressentir grâce à une nouvelle édition, ben, c'est super. Et donc, bon, c'est sans doute pas le meilleur Knizia, il y en a que je préfère, mais c'est en tout cas, je trouve, un des multiples incontournables du Docteur. Donc voilà pour mon jeu de 2006, Genesis 2, Rainer Knizia. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous a intrigué. Et en attendant une prochaine émission, jouez bien.
Eh ben merci Flavia. Donc effectivement, Flavia nous parle un jeu du plus que prolixe Dr. Knizia. Celui-là, Genesis, j'ai eu la chance d'y jouer. La chance d'y jouer plusieurs fois en ligne avec Flavia. C'est un jeu qui est particulièrement laid. On va pas se mentir. Je sais pas, tu vois toi à quoi il ressemble ce jeu?
Je suis allé voir. Bah forcément, quand on me dit ce jeu est moche, je vais voir. Voilà, c'est mon petit côté maso, je suis allé voir.
C'est ça, t'es dans ton domaine et attention, non, pas les jeux moches ne sont pas ton domaine, mais tu t'es dit, il y a un univers graphique, il faut que j'aille voir ça.
C'est ça. Bah, voilà. C'est pas sûr qu'il y ait une chronique sur ce jeu, quoi.
Mais c'est un super jeu, très très sympa. J'ai très très, très très agréable, très très plaisant, une vraie profondeur et des règles très simples. J'ai beaucoup beaucoup apprécié. Et puis il est assez accessible et il est court et il est très accessible. Alors qu'à cette époque-là, Knizia était quand même dans les jeux plus costauds.
Oui, c'est ce qui paraît. Il paraît moins accessible au premier abord, en tout cas.
Ouais ouais.
Et il va être réédité, nous disait Flavien. Donc j'ai essayé de voir réédition Glyph dont il parle, en disant qu'il était moche aussi.
Oui.
Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas cherché non plus 10 000 ans. Donc, Flavien, n'hésite pas à mettre une petite photo dans le billet pour qu'on voit comment est nouvellement moche le jeu qui va ressortir. Et sinon, sur les rééditions de Knizia, moi, j'ai joué aujourd'hui à la réédition de Indigo, donc qui s'appelle maintenant Butterfly Garden. Et j'ai été assez bluffée, j'ai eu un beau coup de cœur pour ce jeu-là. Alors là, on l'a joué comme des premières parties, c'est-à-dire un peu à la One Again, et je pense que c'est vraiment un jeu qui peut avoir beaucoup de profondeur, où tu peux vraiment anticiper les mouvements de tes papillons. L'idée, c'est d'arriver à ramener... Tu fais une sorte de chemin.
Oui.
Et tu vas ramener tes papillons à bon port. Donc il y a un petit côté, j'ai trouvé un petit feeling à la Carcassonne, dans le sens où tu peux vraiment bloquer les autres, et puis leur tordre un peu le bras pour faire un truc qu'ils n'ont pas envie de faire. Et je trouve que thématiquement, il est assez incroyable parce que t'as vraiment l'impression de voir tes papillons voler.
Ah, super.
Alors que Indigo, c'était juste une histoire de gemmes et de pierres précieuses. Là, je trouve que l'idée d'une, ça retombe un peu sur le précédent dossier des remakes, des rééditions et tout ça.
Oui.
Et d'avoir changé le thème avec ces papillons, bah là, t'as une vraie cohérence thématique et mécanique que j'ai trouvé hyper agréable.
Ah, très bien. Eh ben, super.
Je te conseille.
Eh ben, écoute, je le note. De toute façon, c'est toujours intéressant. Même un mauvais jeu de Knidia, c'est toujours intéressant pour des tas de raisons. Ne serait-ce que pour savoir de quoi Bartouf parle.
Tout à fait.
Donc voilà. Donc bah malheureusement pour Flavien, nous n'avons aucun auditeur qui n'a pensé à nous parler de Genesis. Donc on va vous citer 2-3 autres jeux de la période qui ont été cités par des auditeurs. Si tu veux y aller, je t'en prie.
Eh bien, nous avons Fan750 qui dit « Bon, après 10 pages de BGG, c'est pas l'année la plus riche de l'histoire du J2S, mais il a quand même Talouva, Time's Up, Iliad et Batawaf. » Avec des petites étoiles dans les yeux après Batawaf. On a aussi Game Tracker qui nous parle de Tempête sur l'échiquier, parce que c'est totalement loufoque. En effet, moi, je pense que j'aurais envie de jouer aux échecs avec Tempête sur l'échiquier, alors que j'aime pas les échecs.
Ah, ça change totalement l'expérience. C'est très, très chouette, Tempête sur l'échiquier, effectivement. Oui.
Et bien maintenant, nous allons changer d'ambiance. On va aller farfouiller, faire des fouilles archéologiques avec Mad. Donc, c'est pas seulement repartir 20 ans en arrière, c'est aussi aller mettre les mains dans la terre avec Mikérinos. On t'écoute, Mad.
Prenons place à bord d'une machine à remonter le temps. Réglons le cadran sur moins 20 ans. Nous arrivons donc en 2006 pour assister à la sortie de Mikérinos, un des deux jeux édités par Istari cette année-là. Ispahan. L'autre jeu de 2006 de chez Istari, c'est Ispahan. Et quelle époque ! Le nombre de sorties de jeux se comptait en centaines et non en milliers. Les couvertures des boîtes affectionnaient les camailleux de marron brun. Les règles du jeu étaient écrites en italique dans une police improbable sur un fond à motifs, dans le cas présent des hiéroglyphes. Mais poursuivons un peu notre voyage jusqu'en 1899, date à laquelle se déroule l'action du jeu. Nous incarnons des archéologues qui pillent, enfin fouillent, les terres de l'Égypte pour le compte de gros riches barres, je veux dire des mécènes, qui portent des noms qui font qu'on les invite très bien au manoir Tudor, celui du Cluedo. Sir Brown, Miss Blackmore, Lord Lemon. Et donc nous, archéologues, cherchons à garnir d'artefacts volés, enfin je veux dire d'artefacts précieux, les vitrines des salles d'exposition les plus prestigieuses d'un musée. Allez, si j'osais, nous irions jusqu'en 196 avant Jésus-Christ, au moment où la pierre de Rosette a été gravée. Pierre de Rosette qui se trouve toujours en 2026 au British Museum. Mais bon, je suis là pour vous parler du jeu, alors allons-y, et puis les voyages en machine temporelle, ça me donne mal au cœur. Nicolas Houry est l'auteur de Mikérinos. Fun fact, il est d'ailleurs crédité pour un seul autre jeu sur BGG, la version Tortue Ninja de Super Cats. Dans l'histoire de la maison d'édition Istari, Mikérinos est le troisième jeu. Il vient juste après Kélus et son placement d'ouvrier. Et pour gagner, il ne faut pas avoir le plus de points de victoire, mais le plus de points de prestige. Dans Mikérinos, on place nos archéologues représentés par des cubes en bois, le jeu est bien de son époque, sur des zones pour fouiller et devenir majoritaire. Il faut se positionner le plus stratégiquement possible parce que, en étant majoritaire, enfin dans le top 2, éventuellement 3, on peut récupérer un mécène, et accessoirement des points, ou avoir la possibilité de se positionner au musée pour obtenir les meilleures places. Dilemme. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Petit point de règle, il existe deux types de fouilles. Soit je pose un cube parce que je commence à fouiller dans un endroit, soit j'en pose deux si je continue à partir d'un cube que j'ai déjà placé. Bref, c'est la compétition sur le terrain et à Londres. On passe son temps à se bloquer entre gentlemen. L'intérêt du jeu réside dans la gestion du tempo. À quel moment passer pour économiser des ouvriers pour la manche suivante et éventuellement remporter les égalités? À quel moment lâcher l'affaire sur les mécènes qui rapportent des points en mode collection et surtout des pouvoirs pour pouvoir prendre les meilleures places au musée et s'assurer la mise en valeur de nos trouvailles? Parce que ces pouvoirs sont quand même très utiles. Ils nous permettent de fouiller dans les pyramides, d'avoir plus d'ouvriers ou d'avoir ses entrées au musée. On ne peut pas être partout à la fois, au four et au moulin. Enfin, si j'osais, je dirais aux fouilles et au musée. Bref, tout cela est assez tendu. Alors Mykerinos n'a pas révolutionné ni même marqué l'histoire du jeu moderne comme ont pu le faire certains de ses collègues historiens. Mais il a le charme de la nostalgie et du désuet qui, moi, me touche. L'extension Nil apporte au final peu de choses pour un jeu qui se suffisait à lui-même. Le fleuve rend les zones moins rectangulaires et un nouveau terrain de jeu, la flotte. Et aussi, un nouveau mécène fait son apparition. Mécène qui nous permet de réserver un emplacement sur le terrain ou au musée. À mon sens, tout cela est dispensable. La campagne de financement pour la réédition à l'occasion des 20 ans vient de s'arrêter le 8 septembre dernier sur GameFound, avec l'extension Nil incluse. On ne va pas se voiler la face, les illustrations d'Amelia Sales et de Pedro Solo, bah c'est bien plus classieux. Mais si on me posait la question façon publicité pour une lessive des années 80, et si je vous échangeais votre boîte de Mykerinos 2006 pour la boîte de 2026, qu'est-ce que vous diriez? Je répondrais non, je garde mon Mykerinos.
Eh bien, merci Mad pour la remise en contexte du jeu et pour cette chronique. C'est vrai que quand on pense au contexte du jeu, c'est quand même pas fifou. Quand Mad, elle a mis le sur notre outil interne qu'elle allait parler de Mykerinos, ça m'a absolument rien dit. Je dis, bah non, je le connais pas. Elle me dit, bah si, on y a joué ensemble. Oups. Et c'est vrai qu'en revoyant le plateau, les souvenirs de jeu me sont revenus, et d'un jeu assez retors, de placement, etc. Et d'une partie que j'avais plutôt bien aimée. Et le pire, c'est que je suis retournée voir mes archives et j'avais gagné. Donc comme quoi, un titre de jeu, des fois, nous marque pas, mais quand on retourne voir les images, ça revient.
Voilà.
Et c'est vrai que Mrs. Blackmore, donc elle parlait du design un peu désuet. Nous avons Mrs. Blackmore qui est une dame qui tire la gueule. On dirait vraiment qu'elle vient de croquer dans un citron. C'est assez délicieux quand même d'avoir un design qui ose comme ça des trucs qui sont pas lisses du tout, quoi.
Oui, et puis c'est vrai qu'on connaît la passion de Matt pour les jeux d'Istari de toute façon. Donc c'est presque pas surprenant qu'elle choisisse de nous parler d'un jeu de cet éditeur-là.
Ah non, pas surprenant du tout.
Pas surprenant du tout. Et puis c'est quand même là on est en plein milieu de la période très faste d'Istari, parce que je crois qu'il est sorti la même année que il y a eu Mykerinos, il y a eu
Ispahan, nous dit-elle.
Ispahan en 2006, oui, c'est ça. Donc une très très bonne année. Je crois qu'il y a Kaelus qui a dû sortir peu de temps avant ou peu de temps après. Donc ouais, on est dans la grosse phase très riche de Istari, oui.
Ah, il me semble qu'elle nous dit que Kaelus est sorti en 2005.
Voilà. Bon bah voilà.
Alors quand on vous dit qu'on écoute la chronique des gens, on les a écoutés avant. Du coup, on fait avec un petit peu nos souvenirs qui peuvent dater de 2-3 jours. Des fois, on n'est pas hyper précis, mais on a bien écouté tout le monde.
On a écouté tout.
Juste, on a des mémoires un petit peu flageolantes.
Oui, oui, oui.
Et Ispahan, pour le coup, je crois pas y avoir joué.
Moi non plus.
Mais là, Mad, elle risque de m'envoyer un message en disant si celui-là, on y a joué aussi.
Ah bah, ça t'auras un commentaire.
Je me flagellerai aussi.
Ma chère Elodie, je te rappelle que à tel jour, à telle date. Ah oui, effectivement, désolé. Voilà, non mais a priori, c'est quand même Mykerinos, on est dans le vrai représentant, le bon représentant du jeu à l'allemande du milieu des années 2000, un thème très présent visuellement, avec une mécanique de majorité, de placement qui est vraiment le cœur du jeu, quoi, c'est typique.
Ah, puis hyper retors, tu commences youp la boum, et puis après tu dis, oh, pop, 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 j'ai fait nimp, oh là là, j'ai fait nimp. Oh là là, m'aider, comment je vais m'en tirer de ce bourbier? Et tu dis, ah ouais, faut quand même que je cogite un peu, quoi.
Ouais, ouais.
Du coup, on les aime bien, ces jeux-là. Des jeux qui sont très, très épurés en règle et qui sont retors, quoi.
Absolument. Alors, une seconde fois, il n'y a aucun auditeur qui a pensé à Mykerinos, mais nous avons un ou deux auditeurs qui ont tapé vraiment pas loin. On a Suivel qui nous parle d'Ispahan, qui est son jeu préféré. Et il nous dit, parce qu'il faut toujours citer les jeux de chez Istari. Eh ben, nous avons Gilles qui nous dit qu'il est entré dans le monde du jeu de société moderne en 2007 et qu'un des tout premiers jeux auxquels il a joué est sorti l'année précédente et il s'agissait d'Ispahan. Il nous dit ensuite qu'il adore jeter une flopée de dés avec cette utilisation originale pour l'époque de ranger les dés de manière croissante et d'utiliser le nombre de dés de même valeur comme pouvoir d'action. Nous avons Monsieur Patate qui dit, je n'ai gardé que deux jeux de cette époque, Ispahan et Fairy Tail. Allez, au final, je garde Ispahan, car j'hésite à garder Fairy Tail. Ensuite, nous avons Aline, qui nous parle de Turn and Taxis, l'aventure postale, auquel elle a joué il y a peu. Elle a adoré sa partie. Les jeux moches allemandes, c'est son truc. Eh ben écoute, tu sais que chez Proxy Jeux, on aime aussi les jeux moches à l'allemande. Je suis ravi que tu trouves ton compte chez nous. Et Hervé aussi qui nous parle de Turn et Taxis.
Pas joué à non plus.
Moi non plus.
Enfin, j'avoue que j'ai Moi pas joué à beaucoup de jeux marrons. Heureusement que j'ai des amis sûrs qui font ma culture ludique et qui me régulièrement me font jouer à ces jeux que j'ai du mal à retrouver dans mon cercle proche en fait. J'ai des gens qui ont à peu près le même profil que moi, c'est-à-dire des joueurs qui jouent depuis pas si longtemps que ça.
Oui.
Et donc qui ont pas forcément des ludothèques qui remontent à longtemps.
Ah oui, bah oui, forcément. Oui, oui c'est vrai que quand tu commences, quand tu peux commencer une passion, quelle qu'elle soit, t'as pas forcément toujours, au début en tout cas, la curiosité de remonter rétroactivement vers ce qui a été fait avant. En général, tu commences au moment où t'es et t'avances dans le temps avec ça. Mais ça, souvent, ça vient après, au bout de quelques années, tu commences à t'interroger, à avoir la curiosité de se dire « Ah, mais comment on en est arrivé là ?» etc. Tu vois, c'est... Mais bon.
Oui, mais encore faut-il pouvoir accéder à ces jeux.
Oui.
Parce que là où, si tu veux revenir dans le temps, quand tu lis ou quand tu vois des films, t'as des cinémathèques.
Oui.
Et tu as des bibliothèques. Certes, nous avons des ludothèques, mais qui souvent sont aussi créées depuis peu et remontent pas forcément, sont pas une histoire, un lieu historique de jeu, quoi. Et puis surtout quand t'habites dans une petite ville où, enfin, voilà. La ludothèque est pas forcément hyper bien dotée, même si elle a le mérite d'exister.
Tout à fait. Et donc, pour la pastille suivante, je vous invite à bien tendre l'oreille. Il s'agit d'une première sur Proxy Jeux. Et donc, nous écoutons Beno FX qui nous parle de Taluva.
Il y a toujours un moment, dans une partie de Taluva, où plus personne ne parle. Ça arrive vers le milieu. L'île fait une vingtaine de tuiles, elle commence à prendre de la hauteur, et le joueur dont c'est le tour tient sa tuile en l'air au-dessus du plateau, sans pouvoir se décider. Il essaye de la placer quelque part, il la déplace un coup à droite, un coup à gauche, il la tourne, il la repose au même endroit. Et tout le monde autour de la table suit sa main du regard, parce qu'on sait tous que là où elle va se poser, quelqu'un va perdre quelque chose. Voilà, c'est ça Taluva, un jeu de construction où le geste central est un geste de démolition. Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, je suis BenoFX et aujourd'hui je vais vous parler de mon jeu préféré de 2006, Taluva. Et je crois bien que c'est ma toute première chronique ou pastille en solo en 10 ans de proxy jeu, alors je compte sur vous pour votre indulgence. Taluva, c'est un jeu de Marcel-André Casazola-Merkel sorti en 2006 chez Hansim Gluck, avec une localisation française reprise par Ferti depuis 2012, qui a aussi produit une version Deluxe entièrement rhabillée par Nayad en 2015. Si vous ne connaissez pas, je vais me permettre de vous expliquer le jeu puisque cela ne prend que quelques minutes. Dans la boîte, vous trouverez 48 tuiles, chacune constituée de 3 hexagones à coller en triangle. Chaque hexagone représente un type de terrain. Sur chaque tuile, il y a toujours au moins un volcan et 2 autres terrains. Plage, forêt, plaine, lagon, montagne. Il arrive aussi qu'il y ait plusieurs volcans. À votre tour de jeu, première action obligatoire, vous piochez une de ces tuiles et vous la posez pour constituer une île volcanique. Soit de manière adjacente à une tuile déjà en place, pour étendre l'île en largeur, soit au-dessus des tuiles déjà en place, volcan sur volcan, pour agrandir l'île en hauteur. Ensuite, il y a une deuxième action obligatoire, vous devez construire. Chaque joueuse et joueur dispose de 3 types de bâtiments, 20 huttes, 3 temples et 2 tours. Au départ, vous ne pouvez poser qu'une hutte isolée sur un terrain qui n'est pas un volcan. Vous commencez alors à construire un village. Ensuite, vous pouvez soit étendre un village en choisissant un type de terrain et en posant des huttes sur chaque hexagone adjacent à ce village correspondant. C'est la seule façon d'ailleurs de poser plusieurs bâtiments d'un coup. En faisant cela, vous ne posez pas forcément qu'une seule hutte par hexagone, vous en posez autant que le niveau, la hauteur à laquelle se trouve l'hexagone. Souvenez-vous qu'on empile les tuiles pour remonter en hauteur. Donc une hutte au niveau 1, 2 huttes au niveau 2, 3 huttes au niveau 3, etc. Pour construire les autres types de bâtiments, il va falloir respecter quelques contraintes. Pour les temples, il faut les construire dans un de vos villages qui occupe au moins 3 hexagones et qui n'a pas déjà un temple. Et pour les tours, il faudra que le niveau de hauteur soit au moins de 3. Les tours se mettent en hauteur. Et vous remportez immédiatement la partie si vous arrivez à poser la totalité de 2 types de bâtiments sur les 3 dont vous disposez. Par exemple, si vous arrivez à poser vos 3 temples et vos 2 tours, vous gagnez. Idem si vous posez vos 20 huttes et 2 tours, victoire immédiate. Plutôt simple, non ? Alors pourquoi j'aime autant Taluva ? Déjà parce que, comme je le disais au début, c'est un jeu où construire, c'est aussi et surtout écraser et démolir. En effet, quand vous posez une tuile par-dessus l'île, vous allez recouvrir 3 hexagones de l'île actuelle, et il est fort probable que quelqu'un y ait déjà posé des bâtiments, parce que c'est obligatoire et parce que c'est l'objectif aussi du jeu. Et dans ce cas, ces huttes sont tout simplement détruites par la coulée de lave, qui est représentée par la tuile que vous rajoutez. Et ces huttes détruites ne reviendront jamais en jeu. À la fois c'est une bonne chose parce que c'est un de vos objectifs, mais à la fois les huttes sont le seul type de bâtiment qui se pose sans condition. Et comme je vous l'ai dit au départ, les deux actions sont obligatoires, poser une tuile puis construire. Si vous vous retrouvez à devoir construire un bâtiment et que vous ne pouvez pas, eh bien vous êtes tout simplement éliminé de la partie. Oui oui, ce genre de choses se faisait encore en 2006. Cette obligation de poser un bâtiment est un des éléments qui fait le charme du jeu à mon sens. La contrainte de faire quelque chose même quand cela ne vous plaît pas. C'est tout à fait le genre de sensation qu'on le retrouve dans pas mal de jeux de Knizia par exemple, comme Les Cités Perdues ou Shotten Totten. Et c'est quelque chose que j'aime bien personnellement. Bien sûr, c'est un jeu avec des règles, et pour éviter que le jeu se transforme en pugilat de démolition, il y a quelques garde-fous. Les temples et les tours ne peuvent pas être détruites, et c'est plutôt logique, j'y reviendrai après. Autre limite, on ne peut pas rayer un village entier de la carte, il doit toujours rester au moins un bâtiment si on s'attaque à un village déjà constitué. Sorte de convention de Genève de l'éruption volcanique, quoi. Ou plutôt une protection de la déesse Pelée si on prend la mythologie hawaïenne. Parce que oui, le jeu prend clairement place dans un archipel volcanique du Pacifique. D'ailleurs, Taluva, ça ressemble un peu à Tulavu, hein, un archipel du Pacifique, justement. Mais là où le jeu est d'autant plus élégant, c'est qu'il vous permet d'écraser vos propres huttes. Alors pourquoi, me direz-vous ? Eh bien parce que ça peut être tout à fait intéressant de couper un de vos gros villages en deux. Et pourquoi, me direz-vous encore ? Souvenez-vous de la règle de pose des temples. Un seul temple dans un village d'au moins 3 hexagones au moment de sa construction. Donc, si vous avez un village de 4 ou 5 hexagones avec déjà un temple, vous pouvez très bien le couper en deux, faire en sorte d'isoler 3 hexagones sans temple et y reposer un autre temple. Vous commencez à sentir le truc ? Les règles sont très simples, mais le jeu est bien plus rotor et calculatoire qu'il n'y paraît. Et c'est d'ailleurs le principal reproche qu'on lui fait, qu'il soit trop froid, trop calculatoire, quasiment un jeu abstrait. Et c'est vrai, Taluva a vraiment un goût d'abstrait. Information totalement visible pour tout le monde, la zone de jeu, le nombre de tuiles restant dans la réserve, le nombre de bâtiments posés et restant à chacun, pas de main cachée, pas d'objectif secret, pas d'asymétrie, pas de pouvoirs spéciaux, et surtout, une absence de score. On gagne si on pose tous nos bâtiments de deux types parmi les trois en notre possession. C'est assez à contre-temps de l'époque d'ailleurs, puisqu'en 2006, on est vraiment au sommet de la mode de la salade de points et du décompte final à rallonge. Et pourtant, Taluva n'est pas un jeu abstrait, parce qu'il se joue à 4 déjà, parce qu'il y a quand même un tout petit peu de hasard ensuite, la pioche des tuiles. Même si toutes les tuiles sont fonctionnellement identiques, un volcan et deux terrains, l'incertitude créée par cette pioche permet au jeu de ne pas être calculable de bout en bout. Et c'est d'ailleurs ça qui rend son côté tellement abstrait supportable en multijoueur. Alors oui, ça ne gomme pas certains défauts. À 2 dans un jeu abstrait, bloquer l'adversaire revient à gagner la partie. À 3 ou 4, dans un jeu aussi proche de l'abstrait, bloquer la personne en tête revient à favoriser la deuxième et ainsi de suite. Mais c'est aussi ça qui fait le charme et le piquant de Taluva, ce côté un peu grinçant. Et puis le dernier point qui le sort complètement de son abstraction, c'est son thème, qui est tellement évident et qui est tellement plus qu'un simple habillage. Et c'est quelqu'un qui a fait des études de géologie qui vous le dit. La création d'une île volcanique par éruption successive qui épouse le relief est superbement représentée, à condition d'accepter de mettre de côté la temporalité. La lave détruit les huttes faites de bois et de chaume, et ne détruit pas les tours et les temples qui sont en pierre. Ça me fait d'ailleurs penser à l'église de Notre-Dame-des-Laves, à Saint-Rose, sur l'île de la Réunion, une église pour laquelle, à l'origine, il fallait monter quelques marches pour rentrer, puis qui s'est fait en partie ensevelir par l'éruption de 1977, et à laquelle on accède désormais en descendant quelques marches. Vous voyez, thématiquement, ça marche parfaitement. Les tours, quant à elles, exigent 3 niveaux, parce qu'une tour se construit plutôt sur un promontoire. Et vous voyez ce que ça produit ? Vous retenez quasiment toutes les règles grâce au thème. Et que dire de la table en fin de partie ? Je crois que j'ai joué pour la première fois dans un bar à jeux parisien en 2017, sur l'édition Deluxe d'ailleurs, et j'ai vraiment été fasciné par la prestance de ce jeu sur la table. L'île prend littéralement forme devant vous, en volume, avec ses petits bâtiments. À la fin, vous vous retrouvez avec une petite sculpture en carton et en bois. Voilà pourquoi j'aime Taluva, la simplicité de ses règles, le casse-tête qui se cache derrière, et, même s'il ne raconte peut-être pas d'histoire, quand la partie s'arrête, il en reste une sur la table. Ce magnifique objet que tout le monde a construit ensemble et en se prenant bien la tête. Voilà, c'était donc Taluva, mon jeu préféré de 2006. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine, et surtout, jouez bien.
Alors déjà, bravo Benofix pour cette chronique solo rondement menée. Donc encore un jeu auquel je n'ai pas joué, et il a l'air très très méchant, donc j'ai pas très très envie d'y jouer. J'avoue que je suis pas très fan des jeux très très méchants, et celui-là, il a l'air particulièrement taquin.
Oui.
Pas dire plus. Et j'ai absolument adoré sa phrase « Convention de Genève de l'éruption volcanique ».
Ouais.
J'avoue que cette phrase était délicieuse.
C'est vrai que j'y ai pas joué non plus, mais je vois bien le principe. C'est un principe dans Acropolis, sauf que dans Acropolis, on joue chacun chez soi. Mais là, le fait de monter... Mais comme tu dis, ouais, particulièrement un petit peu teigneux de venir recouvrir les tuiles des autres et... Ah bah, c'est pas moi, c'est la coulée de lave, tu sais, je suis vraiment désolé. En même temps, quelle idée de construire sur les pentes d'un volcan, je suis désolé pour toi, fallait pas. Non, mais là, Benefix m'a donné envie de l'essayer, celui-là, vraiment. Vraiment, il a l'air intéressant pour ce qu'il apporte à l'époque et ce qu'il met en place, qui va arriver plus tard, quoi.
Ouais, puis l'idée de beauté du jeu aussi... Enfin, cette idée de voir cette île qui se crée donne vraiment envie, ouais.
Oui.
Bah, je trouve qu'en tout cas, il est vraiment arrivé à mettre en avant ce côté graphique qu'on voit arriver sur la fin et qui a l'air vraiment très cool.
J'avais eu ce sentiment, moi, sur un jeu qui s'appelle Pueblo, où on construit un village mexicain comme ça, où au début, il n'y a rien, mais chacun vient rajouter une petite pierre à sa couleur ou pas à sa couleur, etc. Et à la fin, t'as un objet que tout le monde a construit en commun. Et c'est hyper intéressant, parce qu'il y a en plus ce côté vraiment 3D, où on va le regarder par les côtés, on va le regarder par au-dessus pour les couleurs, etc. Donc là, j'ai pensé à ça quand Benefix nous a parlé de Taluva.
Ouais, c'est sûr, complètement un autre jeu et vraiment une autre ambiance, mais c'est le jeu Suspens, c'est un jeu de dextérité, où t'as des espèces de barres ondulées que tu dois mettre les unes sur les autres, et l'idée c'est de pas les faire tomber.
Oui, oui, oui.
Et je trouve qu'à la fin, quand t'es arrivé à tout mettre, t'as une espèce de mobile à la Calder, qui est assez incroyable et que t'as envie de laisser en place, parce que ça te fait presque une œuvre d'art contemporain.
C'est un Kundevich.
Oui, c'est ça. C'est ça. Plutôt un Calder pour lui. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de Calder dans une chronique.
Ah bah, avec plaisir. Et donc, Elodie, tu vas nous dire que Benefix n'est pas le seul à nous avoir parlé de Taluva.
Ah non, pour le coup, Taluva, il est revenu dans beaucoup, beaucoup de réponses. On a Christophe qui nous dit « J'ai principalement joué à deux joueurs. À l'époque, je me souviens que le plus marquant était l'effet visuel de sa verticalité qui était nouvelle, pour moi en tout cas, dans les jeux de société. Et surtout, je l'aime toujours aussi bien aujourd'hui. Un jeu tel que je les aime, des règles simples de la réflexion, des choix à faire qui impactent fortement la suite de la partie, la petite jubilation lorsqu'on arrive à ses fins tout en déclenchant la fin de partie. On a aussi Fan750 qui nous dit Taluva, la quintessence du jeu de placement. Chaque tuile, chaque bâtiment peut faire basculer le jeu, obligé d'être attentif à tous ses adversaires, tentu. Ça montre aussi comment le jeu de société a évolué, son successeur c'est Acropolis. Chacun joue dans son coin, interaction limitée au possible, extension coop, les joueurs sont fragiles. Bon, il met un clin d'œil derrière. Parce qu'on a encore des jeux taquins, faut quand même...
Oui, oui, oui.
Faut quand même... pas se leurrer, et puis on peut bien piquer l'herbe sous le pied avec Acropolis quand même, en piquant les tuiles
oui, quand même, oui.
Que les autres essayent de choper. On a aussi Beru qui nous dit 3 jeux sur le podium, Taluva, les piliers de la terre, et surtout Battle Lore. Et Molmo qui nous dit Our Taluva et Mr. Jack.
Et en parlant de Mr. Jack, ça fait une transition parfaite. Mr. Jack, c'est le jeu dont veut nous parler Caducé pour l'année 2006. Caducé, on t'écoute.
La nuit recouvre les sombres ruelles de son manteau ténébreux. Il se glisse dans l'ombre. La fine fleur des enquêteurs de l'époque s'est réunie afin de le capturer avant qu'il ne profite de l'obscurité pour définitivement disparaître. Le piège se referme sur lui peu à peu, mais il est malin. Il a usurpé l'identité d'un des enquêteurs. Les autres sauront-ils le démasquer ? Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Caducé. Avez-vous reconnu mon jeu préféré de 2006 ? Il s'agit de Mr. Jack, de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, illustré par Pierrot. Mr. Jack, c'est l'histoire d'une asymétrie pour deux joueuses qui fait appel à vos capacités de déduction et d'adaptation, en jouant avec l'ombre et la lumière. Sur une grille de cases hexagonales représentant le quartier de Whitechapel, 8 personnages suspects sont déployés. Sont aussi présents des becs de gaz, c'est-à-dire des lampadaires, des plaques d'égout et des habitations. Une joueuse incarne Jack, l'autre l'enquêtrice. Jack est dissimulé derrière l'un des 8 suspects. Pour gagner, l'enquêtrice devra identifier la bonne identité de Jack et l'accuser en se rendant sur sa case avec l'un des autres personnages et ce, avant la fin du 8e tour de jeu. Jack, quant à lui, doit réussir à s'échapper discrètement par l'une des 4 sorties du quartier ou tenir en échec l'enquêtrice pendant 8 tours. Sans rentrer dans les détails de règles, 4 personnages seront déplacés à chaque tour et Jack devra annoncer à chaque fin de tour si son identité secrète se trouve dans l'ombre ou dans la lumière, c'est-à-dire dans des cases autour des becs de gaz ou à côté d'un autre suspect. Ajoutez à ça des initiatives alternantes avec un système de snake draft, des pouvoirs pour chaque suspect, des becs de gaz qui s'éteignent et vous obtenez un délicieux moment de cache-cache. 20 ans déjà et toujours sur ma table. C'est avec lui que j'ai replongé dans les jeux de plateau. J'aime sa tension permanente, le système de draft qui oblige à anticiper, le plaisir de s'essayer au bluff quand j'incarne Jack. Mr. Jack, c'est 15-20 minutes de concentration où l'erreur vous sera fatale. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous n'avez pas encore joué à Mr. Jack, sachez qu'il reste disponible en boutique et très probablement chez l'un de vos partenaires de jeu ou en bar à jeu. Pour celles et ceux qui seraient curieux, vous pourrez faire un saut dans le temps en vous rendant sur le site de Bruno Catala et trouver la longue histoire de la genèse de Mr. Jack. Je vous mettrai le lien dans le billet. Mr. Jack, en plus d'être mon jeu préféré de 2006, est également l'un de ceux dont je ne refuserai jamais une partie. Merci messieurs Catala et Maublanc, et merci Pierrot. Eh oui, 20 ans déjà, mais jouez-y encore et jouez bien.
Eh ben merci Caducé pour cette pastille sur Mr. Jack. Donc comme tu le dis, si bien un jeu de Catala et Maublanc, un duo quasiment classique, hein. C'est vrai que ce jeu-là, il a la particularité d'arriver à me faire sentir soit complètement idiot, soit complètement génial. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Eh ben complètement. Et je vais te raconter une anecdote que j'ai déjà racontée dans mon Ludopif parce que j'en avais parlé de celui-là. Et si j'avais eu le temps de faire une pastille, j'aurais choisi sûrement Mr. Jack. Et en fait, j'avais joué avec ma nièce de 8 ans. Elle était Jack, j'ai été l'enquêteur. Et on est quasiment à la fin de partie, 7e, 8e manche. Et là, elle déplace un des personnages et il finit une case avant la sortie. Et moi, oh là là, ma pauvre, t'as mal compté, t'as essayé de te barrer, mais t'as mal compté, je la prends pour une neuneu, je vais sur ce personnage-là, et c'était pas Jack. Et elle me dit, tata, je savais que t'allais penser ça, c'était l'autre, parce qu'il restait plus que 2 personnages.
Ah là là, bien joué.
Et là, je me suis dit, putain, je me suis fait rouler dans la farine par une enfant de 8 ans, parce que je l'ai sous-estimée, donc j'ai pris une bonne fessée, là, à dire, tu ne sous-estimeras plus une enfant, et une énorme fierté de voir à quel point elle avait tout compris du jeu et du bluff du jeu. Et ouais, donc là, je m'étais sentie très très bête, comme tu peux le dire, de l'avoir sous-estimée. Et à la fois, j'étais la tata la plus fière du monde à ce moment-là, quoi.
Ah oui. Non, il est fantastique, ce jeu. Déjà, il a la particularité assez rare où on n'a pas de personnage à nous. On joue tous les personnages qui sont sur le plateau, hein, indépendamment de notre rôle. Donc ça, déjà, c'est hyper intéressant. Et puis, vu qu'on a un rôle caché, et puis quand on voit l'adversaire commencer à déplacer notre personnage, sans savoir que c'est nous, hein, on a cette petite suée là qu'on connaît tous. Mais t'es sûr que tu veux le mettre lui sous le réverbère? Je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup à jouer, tu sais. Enfin, voilà, ouais. Et puis, il y a toujours, et puis, qui se réduisent, c'est toutes les possibilités qui se réduisent, et que toi, il faut que t'arrives à toujours garder au moins 2 personnages du même côté pour qu'il y ait toujours un doute, etc. J'ai vraiment une vraie tension qui monte, hyper plaisante.
Ah ouais, puis thématiquement et enfin il y a tout est chouette dans le jeu. Et moi, c'est la première fois que j'avais remarqué l'ergonomie d'un jeu. Avant, j'avais jamais fait gaffe à ça.
Oui.
Mais la première fois qu'on y a joué, c'est l'un des premiers jeux qu'on a eu dans notre ludothèque commune avec mon compagnon. Le premier, c'était Carcassonne. Donc, ça va, une ludothèque commune de plutôt bon goût. Et c'est la première fois que j'ai remarqué que les bords du plateau étaient d'une couleur en fonction d'où tu t'asseyais. Ce qui te rappelait les tours, ce qui te rappelait, enfin, t'avais sur le plateau noté les lampadaires que tu dois virer au fur et à mesure, enfin, les becs de gaz, comme nous dit Caducé.
Oui, oui, oui.
Et ce truc de cette ergonomie, que tout nous soit comme ça facilité, ça m'avait fasciné. Je m'étais dit, mais c'est incroyable, toute la réflexion qu'il y avait dessus et tout ça, ça m'avait vraiment mis sur le cul, en fait.
Oui.
Et c'est la première fois que je le remarquais.
Oui.
Et de voir tout ce travail éditorial.
Il y a des gens qui pensent derrière vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour que ce soit l'idéal, le plus propre, le mieux, etc. Vraiment, ouais, c'est un vrai plaisir celui-là, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et puis, ouais, un qui a pas pris une ride, quoi.
Non, qui a pas pris une ride et puis qui a fondé une petite famille, mine de rien. Parce qu'il y a eu Mr. Jack à New York, il y a eu Mr. Jack Pocket, il y a eu des extensions, des goodies, etc. Et à chaque fois, le jeu arrive quand même à rester intéressant. C'est pas juste un succès du premier.
Ouais, puis il a ses petits descendants comme Red Notice.
Ouais.
Je trouve qu'on a vraiment une sensation qui se rapproche.
Oui, Red Notice ou Fugitive aussi, que j'aime beaucoup, moi, de ces derniers temps. Non, vraiment... Vraiment un super jeu, ouais. Et donc, Caducée n'est pas la seule à nous avoir parlé de Mr. Jack. Il y a Christophe qui nous dit « Mr. Jack, tout d'abord pour ses illustrations. C'est vrai que le travail de Pierrot, c'est toujours fort sympathique sur un jeu de société. Et puis par son mécanisme. Il dit « Déjà 20 ans et je continue à y jouer. » Ensuite, nous avons Alpha 7. 2006, pas ouf comme année. Je dirais Mr. Jack car c'est un des deux jeux qui ont relancé mon appel pour les J2S qu'il a acheté avec sa future épouse.
Ah bah voilà, copain d'achat avec nos futurs époux Alpha 7.
Pour la pastille qui vient, je sais pas toi, mais moi j'ai pas reconnu la voix.
Eh ben non plus, baptême du feu. Et vous non plus, vous n'allez pas reconnaître la voix. Puisqu'il s'agit de l'arrivée de notre petit dernier.
Oui, il s'agit effectivement de Jérém. Jérém, dont on vous avait parlé dans le hors-série de cet été. Si vous n'avez pas encore écouté, précipitez-vous. Hein. Et Jérém va nous parler. Lui, il attaque dans le dur. Il va nous parler d'Impérial. Jérém, on t'écoute.
Attends, tu fais quoi, là? Non, mais tu vas pas attaquer l'Allemagne, quand même? Attends, je vois que t'es perdu, je vais te conseiller. Tu vois l'Autriche-Hongrie, là, en dessous? Elle est à une case de la taxation. Ah, ça va être plein de flouze pour le gouvernement. Hein. Faut faire quelque chose. L'Allemagne, c'est pas ta cible. Ah, moi, je te dis ça pas parce que je suis l'Allemagne, hein, mais parce que j'ai quand même pas mal d'actions en Russie et je voudrais pas que tu scratches le pays. Hein. Réfléchis un peu. T'as vu les armées en Allemagne? Si t'attaques, tu vas te prendre un méchant coup en retour. Hein. Ta strat, là, c'est du lose-lose pour nous deux. Hein. Moi, je te propose un win-win. Avec un pacte Russie-Allemagne, on démonte l'Autriche-Hongrie. En plus, t'as pas d'action en Autriche-Hongrie, ça t'arrange? Non, je dis pas ça parce que mon Italie est occupée par l'Autriche-Hongrie. Moi, je m'en fous de l'Italie, je vais la laisser tomber. Ah! Tu me crois vraiment plus vicieux que je suis, hein? Ah, t'es vraiment trop nul, hein. Alors change de plan. Va sur la case Investor, je te reprends la Russie, et tu vas voir comment on fait l'ours russe. Vous l'aurez compris, mon jeu préféré de 2006, c'est Impérial de McGertz. Et pour d'exceptionnelles raisons. Premièrement, c'est le jeu qui m'a fait découvrir la mécanique de roue d'action. La fameuse rondelle anglaise, comme le nomme si bien le pionfesseur. Ah, je vais avoir le droit à un commentaire. Voir terme rondelle dans BGG. Deuxièmement, en 2006, les jeux de territoire, c'était pour moi risque ou diplomatie. On avait un pays qu'on contrôlait du début jusqu'à la fin. Ma première partie d'Impérial a été complètement cassée, car chaque joueur tenait à son pays d'origine. Or, dans Impérial, il ne faut pas avoir de scrupules. On exploite le pays sans vergogne pour amasser le plus de pognon ou pour aider un de ses autres pays. Après, on peut le laisser tomber. La deuxième partie a été une révélation. Voir terme stock holding dans BGG. Après, j'ai compris que ce n'était pas le premier du genre. Je me suis rattrapé avec les 1830 et honte sur moi, je n'ai jamais joué au tout premier qui est a priori Acquire. Troisièmement, après un impérial, on peut se refaire le déroulé de la partie. On a créé ensemble une nouvelle histoire de l'Europe. Le jeu est exceptionnel dans sa capacité à faire naître une émergence narrative. Interaction forte entre les joueurs, thème fort, tchatch possible et conseillé pour plus de plaisir. Quatrièmement, car j'ai un inoubliable souvenir d'une partie où j'ai passé plus de temps à conseiller les pays qu'à en piloter moi-même, mais qui a tout de même débouché sur une victoire. Je vous explique. Quand on n'a pas de pays, au passage de la case Investor, on peut acheter une action. Le taux de rentabilité des petites actions est plus important que les grosses actions. En étant deuxième sur les pays victorieux, ça peut être hyper intéressant. Conclusion, tu joues moins, mais tu peux gagner. Pour terminer, je précise qu'il existe deux autres versions d'Impérial. Impérial 2030, sorti en 2009, avec la carte du monde. J'ai beaucoup moins accroché car je perds le côté historique immersif et la proximité avec les pays que l'on connaît bien. Et enfin, Seven Empires, sorti en 2024, mais que je n'ai pas eu encore l'occasion de jouer. Voici donc la fiche signalétique, Impérial, de McGertz. L'illustrateur est Mathias Catrin, qui a fait également les Dominions. 2 à 6 joueurs, je vous conseille au moins à 4. Poids BGG 3,56 pour une durée de 120 à 180 minutes. Et le premier éditeur était PD Verlag. Jouez bien!
Eh bien, merci Jérém et bienvenue dans l'équipe. Bravo pour cette première chronique ici. Bon, nous, c'est pas la première de ta production qu'on écoute, mais du coup, c'est la première que les auditeurs et auditrices vont avoir dans l'oreille.
Voilà.
Encore bravo et encore bienvenue.
Bienvenue à toi. Je suis ravi d'avoir de pu faire partie des derniers arrivés et de pu avoir nettoyé les locaux à la brosse à dents.
Surtout qu'ils sont grands, les locaux de la tour Proxy Jeux.
Et oui. Et donc Jérém n'est pas le seul à nous avoir parlé d'Impérial. Il y a Molmo qui nous a dit Impérial évidemment. Et il y a Pauvle qui, alors je suis désolé Pauvle, Pauvle a fait un très très long commentaire. Il dit, il y a qu'une seule réponse possible, c'est Impérial de McGertz. Alors malheureusement le commentaire est très très long, je vais pas tout lire. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, il doit être sur Discord si vous le souhaitez. Mais en gros, il nous explique que pour lui, l'année 2006, ça marque l'avènement de McGertz, que c'est un tremplin vers la conception de ces jeux-là, en fait, qu'il a beaucoup joué à Impérial et à ses dérivés. Et que vraiment, pour lui, c'est le top du top.
Y as-tu joué, toi ?
À Impérial, non.
Ouais.
Non, mais tel que c'est raconté par Jérém, ça m'a donné envie. Je sais pas ce que t'en penses.
Alors moi, les jeux de négo, c'est pas du tout mon truc. Moi, je file ma chemise.
Ah bah ok. Ah oui.
Donc les gens sont très contents de jouer avec moi à des jeux de négo.
Oui, effectivement, oui.
Moi, beaucoup moins. Je suis vraiment pas bonne.
Bon.
Puis ça me met mal à l'aise. Mais après, l'idée de découvrir l'un des premiers avec la roue d'action, que j'avais beaucoup aimé dans Pharaon.
Oui.
Cette idée de roue d'action. Mmh. Et puis, on voit quand même qu'on est encore dans de l'impérialisme avec des mecs blancs qui s'en mettent plein les fouilles. Enfin, voilà. On a un petit côté comme ça, 2006. Avec une petite tendance quand même à s'en mettre plein les fouilles au sens littéral ou un peu moins du terme, tout en allant piller les ressources à droite et à gauche. Est-ce que vraiment ça a changé en 20 ans ? Je suis pas sûre.
Non, effectivement, oui. Non, mais comme tu dis, oui, c'est une des toutes premières démonstrations de ce que les anglo-saxons appellent la rondelle, the rondelle, ou sur BGG, sous ce tag-là, comme tu dis, oui, chez nous, on l'a traduit par la roue d'action, qui est une roue centrale du plateau qui tourne et qui vient modifier littéralement le plateau, et qu'on retrouve dans Navigator, dans Antique, dans Concordia, dans plein de jeux de McGertz.
Alors, j'avoue, tous ceux que tu viens de citer, je n'y ai pas joué. J'ai encore, mais c'est bien de pas avoir joué à tout encore. J'ai encore tellement de choses à découvrir, c'est trop bien. Eh bien, nous allons passer à toi, Kurtz, parce que toi, tu as fait le double de travail. T'es un bon élève par rapport à moi. Donc tu vas nous parler maintenant de Shogun.
Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce cube rouge ? Attendez, ça fait au moins 3 tours qu'on n'a pas mis de rouge dans la tour. Ah, voilà. Bienvenue dans Shogun. Alors quand on m'a proposé de parler de mon jeu préféré de 2006, j'ai quand même hésité. Parce que 2006, c'est une sacrée année. Il y a Quirkle, il y a les aventuriers du Rail Marklin, il y a celui-là. Shogun. Et finalement, 20 ans après, c'est toujours lui que je choisis. Ouais, 20 ans déjà. Salut les joueuses, salut les joueurs, ici Kurtz. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Shogun. Un jeu sorti en 2006 chez Queen Games, signé Dirk N. Et Dirk N, c'est pas exactement le premier pécor qui passe. Le monsieur, c'est quand même l'auteur d'Alhambra, et Shogun n'arrive d'ailleurs pas complètement nulle part. il reprend et retravaille le système de Wallenstein, sorti en 2002, en changeant notamment le thème pour nous emmener dans le Japon de la période Sengoku. Et si je vous parle de Shogun, il y a évidemment un élément qu'il est impossible d'éviter. La tour. Mais attention, c'est pas une tour à dés. Il n'y a pas de dés dans Shogun. C'est une tour à cubes. Enfin, à armée. Et c'est probablement ce qui fait que, 20 ans après, on parle encore de ce jeu. Dans Shogun, chaque joueur incarne un daimyo qui recherche à étendre son influence sur le Japon. Vous avez des provinces, vous avez des troupes, vous avez de l'argent, vous avez du riz. Et vous allez devoir développer votre royaume, construire des bâtiments, recruter des troupes. Et, éventuellement, expliquer à votre voisin que cette province lui va finalement beaucoup mieux quand elle est chez vous. Le tout en programmant vos actions à l'avance. Et ça, c'est important. Parce que vous ne jouez pas simplement votre tour en regardant ce que les autres viennent de faire. Vous essayez de prévoir, vous essayez d'anticiper, vous essayez de comprendre ce que vos adversaires vont faire. Et surtout, vous essayez de faire en sorte que votre plan fonctionne. Ce qui, évidemment, n'arrive pas toujours. Parce qu'il y a les combats. Et quand deux armées se rencontrent, on prend les troupes, on les met dans la tour, et on regarde ce qui ressort. Et c'est là que Shogun a quelque chose d'assez génial, parce qu'il y a du hasard. Mais c'est pas un hasard qui vous dit simplement « Tiens, lance deux dés, on verra si ton attaque fonctionne. » Non. Le hasard arrive après votre décision. Vous avez choisi d'attaquer. Vous avez choisi où. Vous avez choisi combien de troupes. Vous avez pris votre risque. Et maintenant, la tour va décider ce qu'elle fait de votre plan. Et parfois, un cube rouge sort de la tour. Alors que, bordel, ça fait 3 tours qu'on n'a pas mis de rouge dans cette tour. Et là, vous réalisez que ce cube était probablement là depuis une bataille précédente. Quelqu'un l'avait oublié. Ou plutôt, la tour l'avait gardé. Et c'est ça qui est formidable. Parce que la tour ne fait pas que produire du hasard. Elle accumule l'histoire de la partie. Les armées qui disparaissent dans une bataille ne sont pas forcément définitivement perdues. Elles peuvent ressortir plus tard, dans une autre bataille, au pire moment possible, ou au meilleur. Et soudain, une bataille que vous pensiez gagner d'avance devient beaucoup moins confortable. Et c'est précisément pour ça que je trouve que Shogun fonctionne encore 20 ans après. Parce que ses bonnes idées n'ont pas vieilli. La programmation fonctionne encore. La gestion du riz et de l'argent fonctionne. Le développement du territoire fonctionne. La majorité fonctionne. La tension entre développer son royaume et aller piquer celui des autres fonctionne. Et surtout, la tour fonctionne. Elle reste immédiatement compréhensible. Elle reste spectaculaire. Elle crée des moments de tension autour de la table. Elle raconte quelque chose du jeu. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde. Vous pouvez avoir calculé votre attaque. Vous pouvez avoir soigneusement préparé votre armée. Mais vous devez quand même accepter qu'une partie de l'issue vous échappe. Et ça, 20 ans plus tard, ça reste fichrement efficace. Alors évidemment, Shogun n'est pas devenu un petit jeu familial de 15 minutes. C'est un gros jeu. Il demande du temps, il demande de l'investissement, il peut être méchant. Et il peut vous faire passer 2 heures à préparer un magnifique plan pour finalement découvrir que votre magnifique plan était complètement pourri. Mais c'est aussi pour ça que je l'aime. Parce qu'il vous donne suffisamment de contrôle pour que vos décisions comptent. Et suffisamment d'incertitude pour que la partie ne soit jamais complètement écrite à l'avance. Et 20 ans après sa sortie, c'est quand même une sacrée performance. Alors oui, en 2006... il y avait Quirkle, il y avait Marklin et il y avait Shogun. Et si je ne dois en garder qu'un, c'est celui-là. Parce que 20 ans après, quand je vois cette tour, j'ai toujours envie de prendre mes cubes, de les mettre dedans et de découvrir ce qui va en ressortir. Et maintenant, c'est à vous de choisir vos provinces, de programmer vos actions, de préparer vos armées et surtout, surveiller cette satanée tour. On ne sait jamais ce qu'elle a gardé pour vous. C'était Shogun, mon jeu de 2006 préféré. Et ouais, 20 ans déjà. Et surtout, jouez bien!
Eh bien, merci beaucoup à toi, Kurtz. J'avoue que c'est encore un jeu auquel je n'ai pas joué, mais tu m'as donné envie d'y aller, notamment avec ces tours à cubes. J'adore les tours à cubes. Ça amène toujours quelque chose d'un peu fou quand t'as le cube qui ressort des tours après. J'ai découvert cette mécanique dans Crétin C, qui est un jeu qui est largement oubliable, mais qui est rigolo. Voilà. Qui est rigolo, qui réinvente pas la roue, mais qui est drôle, quoi.
Qui a l'avantage sur laquelle tu peux interagir avec la tour.
Oui, en tapant dessus, ça c'est rigolo.
Ça c'est rigolo. Dépenser des actions pour foutre des coups de gourdin sur la tour, c'est toujours c'est toujours rigolo. Ouais, bah Shogun, c'est un jeu classique. Bon, alors, c'est pas le seul que, comme je dis, c'est pas le seul qui m'est venu à l'esprit. J'en ai deux, trois qui me sont venus à l'esprit. Mais je me suis dit que celui-là, il avait quand même cette particularité-là. C'était marquant pour l'époque. Et puis, mine de rien, pour un jeu... un gros jeu, bah il reste accessible. Je l'ai trouvé à l'époque, et puis quand j'y ai rejoué récemment, je le trouve quand même assez accessible. Au niveau des choix, bah allez, y a pas 50 000 choix à faire. Voilà. Vraiment très sympathique.
Et je pense aussi que c'est le trait de cette époque-là, d'avoir des jeux qui demandaient beaucoup de réflexion, mais avec une épure de règles.
Oui, absolument.
Et on voit que l'un n'empêche pas l'autre.
Bah clairement.
T'as pas besoin d'avoir une espèce de dictionnaire de règles pour pouvoir jouer à un jeu qui nous demande de la réflexion.
Absolument, oui. Et puis, petite anecdote, je suis retombé là-dessus en faisant des recherches. Il faut savoir que Shogun a été deuxième au Trick Track d'Or de 2007. Et c'est pas le seul jeu de notre dossier qui fait partie des Trick Track d'Or. En premier, il y a eu les Princes de Florence. Bon, donc personne n'a parlé, mais... c'est quand même intéressant de connaître le top 3. Mmh. Donc en premier, nous avons les Princes de Florence, en deuxième Shogun, et en troisième, les Pieds de la Terre. Et ensuite, un peu plus loin, en sixième, nous avons Impérial, et en septième, nous avons Talouva.
Ok, ah bah oui, donc on est pas mal sur les citations des Trick Track d'Or. Et j'avais envie aussi de revenir sur une phrase que tu avais dite, que j'avais trouvé très jolie, c'était quand tu dis que la tour à cube, elle accumule l'histoire de la partie. J'avais trouvé que cette phrase était hyper poétique et belle. Voilà, je voulais te le dire.
Bah écoute, je te remercie. Et j'ai pas été le seul à vouloir parler de Shogun. Guillaume nous dit Shogun, le pourquoi. Bah, j'avoue qu'à part dire qu'il est extraordinaire, il adore le côté programmation et cette tour à ressources où on lance nos armées pour résoudre les conflits. Et surtout quand il y a des paysans qui viennent y foutre leur nez. Parce que c'est vrai que les armées qu'on n'a pas mis dans la tour et qui ressortent à notre tour plus tard... voilà, ils viennent contrebalancer certains effets d'armée, faire pencher la balance.
Donc ils rentrent militaires et ils ressortent paysans.
Bah en fait, en gros, ils désertent pendant la bagarre. Si tu mets un cube de ton armée à ton tour pour faire la bagarre avec le voisin, qui va mettre des cubes de son armée. Tous les cubes qui sortent pas, on va partir du principe qu'ils ont déserté et ils peuvent revenir plus. Et s'ils tombent plus tard, ils reviennent en tant que paysans et ils viennent un peu foutre le dawa dans les comptes de cubes. C'est très rigolo.
J'adore l'idée.
Ouais, c'est très rigolo.
Vous faites chier, je vais aller cultiver ma terre. Il y a un petit côté candide quand même dans cette histoire, je trouve. Je vais cultiver mon jardin, la guerre c'est mal.
Bah oui. Alors là, c'est pas moi qui vais te contredire.
Ah bah c'est la morale de Candide, ça, de Voltaire.
Mmh. Oui, c'est vrai. Et nous avons Alexandre qui dit qu'il a joué assez peu de jeux de cette époque. C'était il y a longtemps. Oui, bah merci de nous le rappeler, Alexandre. Mais lui garde des bons souvenirs de Dispahan, des Aventuriers du Rail Marklin et de Shogun.
Alors, t'en as parlé aussi, les Aventuriers du Rail Marklin. Du coup, c'est quoi? C'est une map en plus? C'est quoi?
Alors, c'est un jeu de base qui... alors, Marklin, il faut savoir que c'est une marque de petits trains allemande,
okay,
qui a décidé de s'associer à l'époque pour lancer une carte sur l'Allemagne, et il a été réédité plus tard chez nous sous le format de la carte allemande.
Ok.
Voilà.
Merci, parce que je m'étais posé la question et j'avoue que j'ai eu la flemme d'aller voir.
Il n'y a pas de souci.
Ça fait beaucoup de flemme dans cette émission. D'habitude, je travaille un peu mieux, je fais un peu mieux mes devoirs, mais là, cette semaine, c'était particulièrement tendu.
Ensuite, nous allons passer au dernier qui a, alors c'est pas la dernière pastille, mais c'est le dernier qui a rendu sa copie. Il s'agit du Pionfesseur, qui lui veut nous parler de Commands and Colors Ancients.
Salut les joueurs, salut les joueuses, ici le Pionfesseur, et c'est à mon tour de vous parler de mon jeu de société préféré de 2006, à savoir Commands and Colors Ancients. C'est un jeu qui fait partie du système de jeu Commands and Colors, donc, utilisé dans le fameux Mémoire 44, qui est un système qui arrive à prendre, disons, l'essentiel du wargame sans jamais en faire trop. Un système qui garde le meilleur pour enlever tout le gras inutile. D'une part, un des intérêts des wargames, c'est le simulationnisme, c'est-à-dire l'idée de représenter la réalité pour pouvoir s'immerger dans ce que le jeu veut nous raconter. Et ça, on le voit bien d'un jeu qui utilise le système Command & Colors à un autre. Chacun a sa propre dynamique, et ce, avec une même base commune et seulement quelques variations de règles, et surtout des variations de contenu, que ça soit dans les effets des terrains, des unités ou les règles spéciales des scénarios, tout plein de petites touches délicates qui sont juste ce qu'il faut pour permettre de se mettre dans une ambiance. Et l'autre gros intérêt de ce système, c'est qu'il garde ce plaisir de jeu à l'américaine qu'on retrouve dans les wargames, à savoir d'être à mi-chemin entre stratégie et hasard. C'est d'autant plus impressionnant que les jeux à l'américaine de l'époque avaient tendance à trop pencher vers le côté hasardeux, justement. Commands & Colors Ancients, lui, c'est de l'orfèvrerie de game design, car il arrive à être pile au milieu, ce qui va gommer au passage toute une grosse partie chiante et calculatoire qu'on a l'habitude de voir dans les wargames. Ici, on voit directement quels sont les coups que l'on peut jouer, et donc il ne reste que les choix cornéliens, bien appuyés par le fait que, ben, c'est la guerre, et on sent bien que faire le mauvais choix, c'est prendre le risque d'être puni par notre adversaire derrière. Cette tension est d'ailleurs bien appuyée par son système card-driven, qui donne justement un manque d'informations sur les actions possibles de l'adversaire. Là encore, ça donne envie de prendre des risques, d'essayer de lire dans le jeu de l'adversaire, tous ces trucs de mind game, c'est encore un point qui augmente la tension autour de la table. Mais là, je vous parle du système Command & Colors en général. Chaque jeu dans ce système a sa petite particularité. Et je dirais par exemple que mon deuxième préféré, c'est sûrement Mémoire 44, qui a très peu d'unités différentes, et tout est basé plutôt sur les terrains sur lesquels on se déplace. Dans Command & Colors Ancients, c'est cool parce que c'est complètement l'inverse. Le terrain est souvent juste une grande plaine plate, et c'est les unités qui sont toutes différentes. Tout l'enjeu va donc être dans leur positionnement, et dans le rôle que chacune va avoir au sein de l'armée. Chacune a un peu sa force et sa faiblesse, et il faut savoir l'exploiter correctement. Ça va donc donner une vraie personnalité aux batailles, selon quel type d'unité on a. On comprend bien que notre armée n'est pas du tout la même, un peu comme un deck de Magic, qui, bien qu'il suit les mêmes règles que celui de son adversaire, n'a pas du tout la même dynamique en fonction des cartes qu'il contient. Et puis, il y a un autre équilibre que je trouve parfait dans le Ancients, et pas dans les autres Command & Colors, c'est celui entre le simulationnisme et ce que j'appellerais l'arcade. Dans la plupart des autres, on penche tellement du côté simulation qu'on en vient à retrouver les lourdeurs inutiles des wargames. Mémoire 44 et le Ancients, eux, n'hésitent pas à focaliser plutôt la bataille sur l'émergence des situations. Je veux dire par là toutes les cartes spéciales et les jets de dés qui vont créer plein de petites situations rares, de coups ultra violents, qui, mêlés à la situation, vont au final raconter bien plus de choses qu'en voulant être fidèles à l'histoire. Parce que c'est ça pour moi tout l'intérêt des jeux, c'est de réécrire l'histoire, de se raconter sa propre histoire. Et puis c'est marrant de voir des petits moments un peu exceptionnels et mémorables dans une partie. Voilà, et puis je conclurai en disant aussi qu'on en a marre de la Seconde Guerre mondiale à tout va dans les wargames, et ça fait aussi du bien d'en voir un qui parle des guerres puniques, ça nous change. Ok, il y a Hannibal, mais c'est largement un moins bon jeu que Command & Colors Ancients. Voilà, jouez bien.
Eh ben merci Pionfesseur. Est-ce que toi ce jeu te parle ?
Alors il me fait envie mais j'y ai pas joué, encore une fois. Bon là pour le coup je pense que celui-là il est plus niche que le reste.
Clairement oui, parce que là c'est, il est le seul à nous avoir parlé d'un jeu qui a pas vraiment eu de VF. Mais bon après c'est trouvable. Le système Command & Colors, c'est le système de jeu qui a donné
Mémoire 44.
Ouais, c'est pour ça qu'il va être le plus connu. À l'origine, Richard Borg, lui, il l'avait utilisé dans Battle Cry. L'itération la plus connue, c'est Mémoire 44. Mais sa Command & Color a été utilisée dans des tas de jeux qui vont de 3000 avant Jésus-Christ à la période moderne, voire futuriste.
Et je sais pas si t'as remarqué, mais le Pionfesseur et Flavien ont dit quasiment la même phrase. On voit les coups que l'on peut jouer, ne reste que les choix cornéliens.
Oui, effectivement. Oui.
Sur leurs deux pastilles, on a eu quasiment la même phrase. Et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on peut dire de 2006 et de ces jeux d'il y a 20 ans. Encore une fois, des jeux qui ramènent pas du chichi par-dessus du chichi et des tralala. Et qui restent que le plaisir de jeu et que les choix, qui laissent que le plaisir de jeu et les choix.
Oui.
Et on aimerait en revoir un peu plus de ces jeux-là où on ne confond pas simplicité et pur et côté truc sans réflexion.
Oui.
Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais pas radoter non plus. Même si on a vieilli de 20 ans là, on va pas non plus faire comme les vieux. Mais voilà, Et sinon, moi, j'ai beaucoup aimé Mémoire 44. J'en ai pas fait beaucoup de parties, mais je trouve que j'aime beaucoup l'équilibre dont parle le pionfesseur entre hasard et la planification qu'on peut faire de ses troupes, etc., les choix qu'on peut avoir.
C'est un chouette jeu.
Et puis, matinée par les dés qui peuvent rigoler ou pas rigoler.
Oui, clairement, oui. Ah oui, quand t'es super, tu crois que t'es supérieur en tout, t'arrives avec une poignée de tank face à deux types à pied, puis que les dés sont pas avec toi, bah les dés sont pas avec toi. Mais ça reprend quelque part, j'en discutais avec un ami il y a quelques temps, il me dit, mais ça reprend c'est la guerre, quoi. Il y a un tank qui peut tomber en panne à ce moment-là, et puis l'autre, il part en glissade dans la boue. Et ben voilà, c'est la guerre. Effectivement, il y a ce côté imprévisible de tout ce qui peut se passer dans ces situations-là, que finalement, le lancer de dés retranscrit super bien.
Oui, t'as raison, ouais, l'arme qui s'enraye,
Exactement.
La balle qui fait ricocher sur le casque.
Voilà, ouais, tout à fait. Regardez, il faut sauver le soldat Ryan pour voir tout ça. Alors, étonnamment, aucun auditeur n'a pensé à nous parler de ce jeu. Donc, je vais quand même vous donner, j'ai été creusé un peu, je vais quand même vous donner deux petits faits intéressants. Il a remporté en 2006 l'Origins Award du meilleur jeu de plateau historique. Et en 2007, il gagne un Golden Geek du meilleur jeu à deux.
Ok, merci pour tes recherches.
Alors là, est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose d'énorme?
Ah, je crois. Je crois que là, on finit en beauté cette émission.
Feu d'artifice.
Parce que ce sera la dernière pastille.
Bouquet final.
Et donc, c'est Cyrus. Et on va pas dévoiler de quel jeu il parle. On va le laisser faire.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Cyrus, mon jeu préféré de 2006. Je dois dire que je n'ai pas mis bien longtemps à me décider. Ce jeu s'est littéralement imposé à moi. J'en ai fait tellement de parties. C'est bien simple, alors vous écouterez cette émission, je serai proche des 400 parties. Et pourtant, c'est loin d'être un jeu court. Il est donné pour 2 heures de partie. Et je peux vous assurer que c'est un mensonge. Ou alors, il faut être deux et avoir un train à prendre. Vous l'aurez compris, c'est loin d'être un party game. D'ailleurs, BGG lui attribue un poids de 4,18 sur 5. Et sa réédition monte à 4,44. Et autant vous le dire de suite, c'est à sa réédition que je joue. Aïe. Mais les jeux sont tellement proches qu'on ne peut pas vraiment dire que je triche, n'est-ce pas? Je dois vous dire que je suis content d'avoir l'occasion d'en parler parce que c'est un jeu culte. Il est classé 18e sur BGG à l'heure où j'enregistre. Sa réédition du moins, parce que le jeu d'origine, lui, est classé 119e, ce qui est quand même un très beau classement, hein, vous en conviendrez. Et pourtant, on n'a jamais eu l'occasion de lui consacrer un vrai segment dans Proxy Jeux. Alors oui, j'évoque ce jeu régulièrement, c'est sûr, j'y ai joué, j'y joue tellement, mais pas de jeu du mois, pas de ta joie quoi, pas de sortant le grand jeu non plus. Son auteur a tout de même eu sa tribune dans ce format, mais pour un tout autre jeu, bien plus léger. J'ai quand même pu lui consacrer une chronique au format plateau numérique. Ça remonte, hein. C'était dans les chroniques numéro 117, une époque où on numérotait encore les émissions, en mai 2020. Et j'ai évoqué ce jeu à plusieurs reprises, souvent pour illustrer des propos ou pour servir une anecdote. Mais je dis que je suis content de vous en parler, mais en fait je vous ai encore rien dit. C'est Bartouf qui va m'en vouloir, lui qui aurait choisi aussi ce jeu s'il avait eu le temps de participer à cette émission. J'espère que je ne te décevrai pas, cher camarade podcasteur. Et vous savez quoi? Pour introduire ce grand jeu, je ne vais pas m'auto-paraphraser, je vais faire mieux que ça. Je vais vous passer un extrait de la chronique plateau numérique sur Through the Ages. Ah oui, c'est vrai, je vous avais pas encore dit le nom du jeu. C'était pas évident. Il s'agit d'un jeu de civilisation qui va vous mener de l'Antiquité à l'ère contemporaine. Dans ce jeu, à l'aide des grands leaders qui jalonnent les grands âges, il vous faudra nourrir votre population, la faire croître, produire des matériaux, construire des bâtiments, développer votre armée, partir à l'assaut de vos voisins, découvrir de nouvelles terres, réaliser de grands projets scientifiques et construire de splendides merveilles. Tout cela dans un seul et unique but, être la civilisation avec le plus grand rayonnement culturel lorsque la fin de la partie surviendra. Tout un programme. Ce que j'adore dans Through the Ages, c'est son caractère total. Un caractère qu'il hérite en grande partie de son genre, le jeu de civilisation. Mais là où beaucoup de jeux de civilisation tentent de proposer des parties ramassées avec beaucoup d'abstraction et une durée de partie contenue, en tout cas de nos jours, l'adage va-t-il choisit de ne pas proposer un jeu de civilisation édulcoré. Non, le jeu est certes complexe, oui, mais ce n'est pas une complexité telle qu'on la voit souvent aujourd'hui à empiler de multiples couches et autres micro-règles pour tenter de tout simuler. Oui, c'est complexe, mais de manière bien plus subtile. La complexité s'exprime dans les échanges qui se créent entre les différents segments du jeu. C'est au prix de cette complexité que le jeu parvient à mettre en œuvre des systèmes réalistes qui font ressentir l'équilibre d'une civilisation. Dans Rosy Edges, on est toujours sur le fil, à la limite de la rupture. Trop d'engagement dans une voie, c'est une autre qui s'effondre, et cela pourrait bien nous coûter la victoire. Il faut parfois savoir prendre des risques, accepter d'encaisser une période difficile pour mieux rebondir, ou pas. Parfois, il faut saisir les occasions qui se présentent, même si elles coûtent cher. Parfois, il faut savoir attendre. C'est souvent la façon de jouer des autres qui vous dictera la bonne marche à suivre. Car oui, la façon de jouer des autres compte beaucoup. Elle guidera vos choix autant que vous guiderez les leurs. Des choix, beaucoup de choix. On ne peut pas tout faire et ce jeu est l'illustration même de cette expression qui dit « choisir, c'est renoncer ». Nos choix ont de réelles conséquences et on le sent autant quand nos points s'envolent par un effet boule de neige que lorsqu'ils fondent comme neige au soleil face à un adversaire belliqueux. Le jeu est punitif mais encourageant. On sent qu'on peut essayer plein de choses différentes. Des choses qui vont fonctionner et d'autres pas. Et quoi qu'il arrive à la fin, on peut regarder sa civilisation et admirer son parcours comme on feuillette l'album photo de famille pour se rappeler les bons moments vécus. Et à la fin de chaque partie de Rosy Edges, c'est un nouvel album qui s'ouvre, car les parties ne se ressemblent pas, même avec le jeu de base et son setup fixe. Alors, quand on rajoute l'extension qui amène en particulier des leaders et des merveilles supplémentaires, ça devient vertigineux. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi j'adore ce jeu, et pourquoi, je peux le dire maintenant, j'ai triché à double titre. En fait, je n'ai jamais joué à Rosy Edges, ni à la première, ni à la dernière version. J'ai la boîte, achetée d'occasion. Alors, elle est ouverte, hein, mais je n'y ai jamais joué. J'ai découvert le jeu via l'application. Alors c'est vrai, j'ai presque 400 parties au compteur, mais j'avoue que je n'ai encore jamais trouvé l'occasion d'y jouer en vrai. Et maintenant, j'ai tellement d'attentes que je veux que cette première partie de Rosy Edges soit parfaite. Du coup, maintenant, j'attends que partout fasse une partie avec moi. Voilà. C'est pour toutes ces raisons que Rosy Edges est mon jeu préféré de 2006. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ce jeu, foncez. Je vous en souhaite une belle découverte et je vous dis, jouez bien.
Alors, je tiens à dire que c'est beau le recyclage. Moi, je suis pour l'écologie, pour et recycler ces anciennes pastilles, ces anciennes chroniques. Moi, je dis chapeau. D'habitude, c'est plutôt le pionfesseur qui aurait tendance à nous faire ça. Là, c'est Cyrus qui s'y colle. En revanche, la triche moyen, quoi. Parce que quand tu parles de 400 parties d'un jeu, moi, j'étais là, punaise, 400 parties d'un jeu de 2 heures, waouh, chapeau bas et tout. Quand derrière, tu dis que tu triches et que c'est 400 parties numériques, c'est quand même pas tout à fait la même mayonnaise, parce que ça veut dire que tu n'as pas sorti 400 fois ton jeu, que t'as pas sorti 400 fois les éléments, fait la mise en place, que t'as pas rangé 400 fois le jeu, oublié 400 fois la règle, et du coup, rouvrir ton jeu, remettre la règle dedans, etc. Voilà. Moi, je trouve que c'est un petit peu triché et que c'est à peu près à la hauteur de mes 2500 parties d'Ascension sur téléphone. Et c'est pas tout à fait pareil quand même. Mais tu nous as donné sacrément envie d'y jouer.
Oui, bah, c'est vrai que... Alors, je vais pas vous mentir, j'y ai jamais joué. Mais j'y ai jamais joué non plus sur en virtuel. Hein, donc, je peux pas me vanter d'avoir une seule partie à mon compteur de ce jeu-là. Mais c'est vrai que Cyrus nous en parle... Enfin, de toute façon, c'est pas la première fois qu'il en parle. Et il en parle toujours de façon très... Il donne envie. C'est vrai que quand Cyrus nous raconte Rosy Edges... Il nous donne envie.
Ouais, puis encore un jeu d'un grand auteur. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir des jeux de grands auteurs. Et surtout de cet auteur-là qui est parti dans tous les sens, quoi.
Ah, Choatil, oui, c'est impressionnant. Oui, c'est toujours Choatil. Moi, je suis toujours... c'est incroyable, c'est incroyable. Quand on te dit... ok, alors je vous présente, il a fait Codename. Ok, classe quand même, ce Codename, c'est bien. Mais il a aussi fait cet énorme jeu de civilisation, True the Edges. Là, tu regardes, tu dis, on est sur un grand écart incroyable quand même, là. Ah ouais, mais il a pas fait que ça.
Il a aussi fait Galaxy Trucker.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a fait Galaxy Trucker, il a fait Space Alert. Enfin, c'est Pictomania, là, plus récemment. Enfin, c'est quand même, c'est une ludographie incroyable, mais et qui part dans toutes les directions.
Je trouve qu'il a un petit côté Kubrick.
Oui, Oui, wesh.
C'est le Kubrick du jeu de
voilà,
société.
Voilà, à chaque fois qu'il s'attaque...
Un jeu par
un
thème.
Un jeu par thème. Ou Friedman Friseux, un petit peu aussi, qui fait ça, qui...
Ouais.
Qui, je prends un truc, je le démonte, je le remonte, voilà, le party game, c'est ça. C'est pour moi, c'est ça. Waouh. Le jeu d'utilisation, c'est ça. Pour... Ah ouais, comme... Non, mais vraiment, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant.
Alors, Friedman Friseux, il est plus punk que je pense. Je l'associerais pas à Kubrick.
Non, peut-être pas.
Tu vois, pas le... Moins sérieux, quand même. Pour le coup, j'avais fait un peu plus mes devoirs sur celui-là, donc j'avais été voir sur BGG les images du jeu, enfin ce que j'ai fait quand même pour tous les jeux.
Oui.
Et je sais pas si t'as vu la carte Peace Treaty, qui était un hommage, enfin qui était vraiment issu d'une... C'est un easter egg en fait, qui donc le traité de paix.
Oui.
Qui reprend le dessin une photo qui est la signature du traité de paix de 94 entre Israël et la Jordanie. Et j'avoue que ça m'a rendu vraiment nostalgique de voir cette carte d'un temps où il s'était encore possible de discuter entre deux pays. Et voilà. Voilà, c'était ma petite discussion.
Alors, j'ai pas vu.
T'as une photo sur BGG, en fait, où ils te mettent la photo.
Ouais, ouais.
Et la carte à côté. Mmh. Et t'en as une autre aussi, où je crois que c'est Angela Merkel.
D'accord.
Donc, il y a certaines cartes, voilà, qui reprennent des iconographies d'actualité, de politique.
Mmh. Eh ben, on vous mettra tout ça dans le billet, de toute façon. N'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est sur le chemin pour aller mettre des commentaires, c'est pratique.
Tout à fait. On aime vos commentaires.
On aime vos commentaires. Mais bon, Trouzy Edgis, il n'y a pas que Cyrus qui a tenu à nous en parler. Ben non. Il y a Grovas qui nous dit sans hésiter, Trouzy Edgis, hashtag J2S, le grand.
L'idée d'un jeu de Sifs sans map, c'était fou. Et il y a aussi Gilles qui nous dit « Bien plus tard, je découvre un autre sommet du JDS de 2006, le jeu Throw the Edges, qui reste encore aujourd'hui un jeu qui n'a pas pris une ride et qui n'a pas d'équivalent. » Et puis, on a eu quelques autres jeux cités quand même.
Quelques autres jeux cités que j'ai pas réussi à raccrocher à nos pastilles. Donc, on va vous les citer comme ça, parce qu'ils méritent d'être cités. Il y a Grégory qui a tenu à nous parler du Monopoly Poitou. Et c'est vrai qu'à cette époque, le Monopoly a sorti toute une variété de jeux basés sur des régions, sur des villes, sur tout ça. Hashtag le scandale de Moncuc. Mmh. Et Armel qui voulait nous parler de la course des tortues. Alors ça... On est en plein dans le classique du jeu enfant.
Et encore un Knizia.
Et
pour le coup, alors je vous ai dit tout à l'heure que si j'avais choisi un jeu, ça aurait été Mr. Jack. Mais comme Caducé voulait la faire, moi j'aurais fait une pastille sur la course des tortues, qui n'est pas mon jeu favori de cette époque-là, de cette année-là, mais le jeu favori de mon compagnon de cette année-là. Je vous ai déjà beaucoup parlé de mon compagnon ici. Et en fait, lui, il kiffe ce jeu. Et c'est un peu une tradition à la maison, c'est t'enlèves tes chaussures, puisque nous sommes en chaussettes dans notre maison, ou en chaussons, et tu joues à la course des tortues si tu n'y as jamais joué.
Ah.
Il n'y a jamais personne qui quitte notre baraque sans avoir joué à la course des tortues et sans avoir découvert la course des tortues. Nous y avons joué pas plus tard qu'aujourd'hui parce que nous avions à la maison une copine qui n'y avait jamais joué. Et nous en avons fait 3 parties de suite. Parce que ce jeu est grandiose. Cette idée de mettre les tortues les unes sur les autres et du bluff et tout ça pour un jeu enfant, c'est absolument délicieux, parce que la course des tortues, voilà, l'idée c'est que vous faites avancer vos tortues, c'est la première qui arrivera aux salades qui l'emporte. Si vous êtes un peu geek, vous mettez des stickers pizza au bout de votre course, quoi, et du coup ça vous fait une course des tortues ninja.
Génial.
On l'a pas fait encore, mais on le fera peut-être un jour. Et en fait, le truc, c'est que les tortues, elles peuvent se grimper dessus. Donc si vous bougez une tortue, vous bougez aussi toute la ribambelle de tortues qui sont sur elle.
Toute la pile, oui.
Et c'est ça qui fait tout le jeu, en fait. Parce que vous pouvez vraiment bluffer, il y a des retournements de situation, les tortues, elles reculent, elles avancent. Enfin, si vous êtes un peu adepte de notre podcast, vous savez que Bartouf a fait un joueur né sur la course des tortues. Et donc, nous vous invitons à aller l'écouter. Mais c'est pas qu'un jeu pour enfants. Moi, je vous invite vraiment à y jouer, entre adultes aussi. Et c'est un excellent filler, le temps que les pâtes cuisent ou le temps que quelqu'un fasse la vaisselle.
Ah oui, non, parce que c'est vrai qu'Armel nous dit qu'elle y joue avec ses petits-enfants et qu'elle y joue toujours.
Bah, Armel, joue-y aussi avec tes amis.
Et c'est un très bel exemple, un très joli exemple de jeu de 2006 qui a traversé les années et qui reste toujours joué en famille ou entre amis. Et ben voilà, nous arrivons au bout de tout ce que nous avions à vous dire sur les jeux de l'année 2006. Je tenais à vous dire un petit mot sur le wiki ProxyJeux. Nous avons sur notre site un wiki où le camarade Erwan recense héroïquement, mois après mois, les mots du jeu de société avec la définition.
Très bien. Et nous, vous savez, il y a une petite tradition quand il s'agit de dossiers, c'est-à-dire qu'on vous fournit un code de réduction qui vous permet d'avoir 5 euros de réduction pour 40 euros d'achat. Donc le code, attention, prenez un stylo. G comme Gérard en minuscule. Et ensuite toutes les autres lettres en majuscule. S comme Stéphanie. T comme Théodore. C comme Christian. H comme Hippolyte et B comme Brenda. Bon, pas de panique, il sera écrit sur le billet parce que si vous n'avez pas eu le temps de prendre un stylo pour le noter, enfin, vous pouvez toujours revenir un petit peu en arrière dans votre écoute. Donc, on arrive du coup à la fin de cette émission. Donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Blue Sky, Mastodon, Facebook ou Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre notre serveur Discord et surtout, parler de nous autour de vous.
Voilà, et vous pouvez aussi, si vous appréciez ce qu'on fait, nous donner des sous. Donc pour ça, vous pouvez passer par PayPal ou par virement. Je vais pas vous mentir, on préfère que vous passiez par virement, ça évite que PayPal prenne une petite commission au passage. Et pour tout ce qui concerne les dons, vous trouverez toutes les informations sur le site.
La semaine prochaine, on se retrouvera dans un nouvel épisode de Sortons le grand jeu, où Cyrus et le professeur nous parleront de Time's Up. Tiens, c'est rigolo, ça fait une belle transition avec ce qu'on a dit aujourd'hui.
Et le mois prochain, on sait pas encore, mais peut-être un débrief de Vichy. Vichy, où tu seras, toi ?
Oui, j'y serai avec ma boutique. On va nous pitcher des centaines et des centaines de jeux pour Noël.
Eh ben, je te souhaite un bon courage.
Merci.
On vous dit à très vite sur Proxy Jeux, et d'ici là, jouez bien.